Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission du SAV de la F1 consacrée au Grand Prix d'Allemagne qui avait lieu à Hockenheim. Un Grand Prix qui aura vu le grand retour de Ferrari pour le meilleur avec ce doublé dont les rouges avaient bien besoin pour le championnat. Et bien sûr, forcément, nous allons en parler pour le pire avec des choses que l'on n'avait pas vues depuis bien longtemps et qu'on ne souhaitait pas revoir, il faut bien le dire. Pour m'accompagner ce soir, bonjour Dino.
Bonjour Chidi, comment vas-tu? Bonjour chers auditeurs.
Alors déjà une constatation, c'est que nous sommes que deux.
Non voilà, Enzo a décidé de ne plus participer à l'émission. Donc voilà, on va le remercier de sa participation pour la saison et demie qu'on a passée avec lui. Et puis on lui souhaite bonne chance pour ses projets de reprise du site Enzo F1, et voilà, ça va pas nous empêcher nous de continuer à faire l'émission, et voilà, donc c'est une page qui se ferme et peut-être une autre qui s'ouvre.
On avance.
Voilà.
Donc revenons à ce Grand Prix d'Allemagne.
Oui.
Alors bon, sur la course en général, qu'est-ce que tu en as pensé? Moi j'ai trouvé que la course était pas franchement extraordinaire. C'était un peu une course classique, c'est-à-dire que il s'est passé beaucoup de choses au début, puis petit à petit, ça a été de plus en plus calme.
Oui.
Jusqu'à donc ce fameux 49e tour, hein, bien évidemment.
Bah disons que ce qui est dommage, c'est qu'un peu le seul suspense de la course, ça a été la lutte entre Felipe Massa et Alonso, la bataille des chronos. Et finalement, c'est parti un peu en quenouille. Et voilà, en dehors de ça, ça a été une course tout s'est joué au départ ou presque. Et voilà,
oui.
On a eu un petit défilé.
Allez, nous étions donc le 25 juillet.
Oh non, même ça reste.
Si, ça reste. Allez, tout de suite, l'éphéméride.
Le service après-vente de la F1 vous présente l'éphéméride de Shinji. Une rubrique si drôle qu'elle fait méride. c'est pas drôle en fait.
Donc, nous étions le 25 juillet, nous fêtions les Jacques, mais seulement les Jacques adultes, parce que c'est la Saint-Jacques le majeur, et pas Saint-Jacques le mineur. Ah, c'est vrai, hein, y a plusieurs Saint-Jacques dans l'année. Donc, l'effet marquant du 25 juillet, jour où on n'a pas marché sur la Lune. Parce que j'aimerais quand même dire que Dino, il s'est excusé envers Neil Armstrong, Buzz Aldrin et machin là. Mais il s'est même pas excusé face à moi.
Voilà, tu m'as fait confiance. Je m'en excuse, Shinji, typiquement, pendant l'émission. Je sais pas pourquoi je me suis mis à dire que c'était le 11 juillet.
Parce que c'était le 21, la bonne date. Donc, il y avait
oui, voilà,
11-21. Donc, des faits qui se sont vraiment passés le 25 juillet. Le 25 juillet 1593. Vous connaissez l'expression « Paris vaut bien une messe ».
Oui.
Eh bien, le 25 juillet 1593, c'est le jour où Henri IV a abjuré le protestantisme pour se convertir au catholicisme. Puisque c'est ça, le sens de « Paris vaut bien une messe ».
Il n'a pas fait qu'inventer la poule au pot.
Non, il n'y jouait qu'au biboquet. Sinon, le 25 juillet 1772 était signé un traité, en fait, entre la tsarine Catherine II avec le roi de Prusse Frédéric Ier et l'archiduchesse d'Autriche. C'était le premier partage de la Pologne, puisque c'est vrai que ce pays a pas vraiment eu beaucoup de bol au cours de son histoire. Le 25 juillet 1909, c'était la première traversée de la Manche en avion par Louis Blériot.
Oh.
De Calais à Dour, il mettait que 37 minutes. Et le 25 juillet 2000, à 16h44, voilà, c'était le drame du Concorde, le vol 4590, où il y a quand même eu 113 victimes, et qui a un peu signé l'arrêt de mort du Concorde.
Et dont le terrain est à vendre, je crois, le terrain, fameux terrain sur l'hôtel où il s'est écrasé, est à vendre, ou a été vendu dernièrement.
Sinon, les naissances. Alors, c'est une naissance qui va te faire plaisir, toi qui es fan de séries télé, toi qui es fan de Friends.
Ah.
Puisque le 25 juillet 1967, c'était la naissance de Matt LeBlanc.
Ah ouais, mais j'aime pas lui. Moi, je suis plutôt Chandler.
Voilà. Pourquoi c'est la naissance de Joey. Les célébrations de ce jour. Alors, il n'y a pas de fête internationale à la con, hein.
Oh, dommage.
Mais en Tunisie, c'est la fête de la République pour célébrer donc la proclamation de la République en Tunisie. Sinon, j'ai trouvé que dans la mythologie inca, c'était la fête du dieu du tonnerre Ilapa.
Ilapa.
Ouais. Et il en a.
Non, nous ne ferons aucun jeu de mots sur ce dieu du tonnerre, puisque il pourrait se réveiller. Nous approchons du mois d'août, de la saison des orages et.
Ah. Oui, puis tu sais, avec tous les trucs de calendrier maya et tout voilà. Ça, on va éviter de se friter avec des dieux à tête bizarre et à plumes bizarres et à trucs bizarres. Et donc, en F1, ce jour-là. Alors.
Attention, chers auditeurs, attention.
Alors, outre le fait, ça a été dit que c'était les 1 an, de l'accident de Massa. C'est là que, en plus, tout ce qui s'est passé prend encore plus de gravité et de sens.
Oui, mais, oh, non, les vrais 1 an, ce sera au Grand Prix. La vraie belle histoire, ce sera au Grand Prix de Hongrie. Moi, je veux qu'il gagne en Hongrie, pas en Allemagne.
Et aussi, c'est un autre anniversaire. Anniversaire d'un pilote que nous aimons beaucoup au SAV. Puisque c'est l'anniversaire de Nelson Piquet Jr. qui est né en 1985.
Et donc, nous allons revenir sur la carrière de son père.
Alors, nous n'allons pas revenir sur son père. Nous n'allons pas revenir sur sa carrière non plus, parce qu'on n'en a pas envie, puis qu'il n'y aurait pas grand-chose à dire. Non, aujourd'hui, comme la dernière fois, c'est un petit quiz, un petit test pour voir tes connaissances. Voilà. En fait,
ça va être relativement rapide, vu qu'Enzo n'est pas là, hein, et que moi je suis une quiche.
Je pense que tu peux trouver, on va parler des fils d'eux.
Oh!
Oui. Ces pilotes de F1 qui ont eux-mêmes été, fils de pilotes de F1. J'ai pas du tout été clair.
Non, mais ça va, non, mais honnêtement, par rapport à certaines rubriques que tu as pu nous faire, non là ça va, je pense que...
Et donc, est-ce que tu peux nous citer des noms? Sache que donc j'ai fait le tour de Stat F1. Bien évidemment, on fait toujours le tour de Stat F1 pour ces rubriques-là. Et j'en ai compté 11.
11.
Ah ouais. 11.
Bah déjà, donc, le plus célèbre, le seul à être champion du monde, Damon Hill.
Oui, enfin les deux. Que les deux soient champions du monde.
Oui.
Fils de Graham Hill.
Voilà.
Présente.
Jacques Villeneuve.
En effet.
Nelson Piquet.
En effet.
Rosberg,
qui a la particularité d'être le fils de son père, mais de ne pas avoir la nationalité de son père.
Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a eu Winkelhock.
Exactement, Marcus Winkelhock, fils de Manfred Winkelhock.
Ouais.
Et il a aussi eu un oncle qui était en F1. À noter aussi comme Jacques Villeneuve. Jacques Villeneuve senior a aussi été en F1.
Il y en a un autre qui se pense là, mais j'ai pas son nom en tête. Merde.
Alors,
un pilote japonais. Nakajima.
Oui, exactement, fils de Satoru Nakajima, qui a roulé au début des années 90. Le père, bien sûr.
Ça m'en fait combien? Ça m'en fait 5, 6?
Tu en as 6.
6, qu'est-ce qu'il y a
6, et il y en a 3 qui sont trouvables pour toi, et il y en a 2 qui sont introuvables.
Il y a eu Michael Andretti.
Exactement, fils de Mario. Il faut imaginer que quand on a parlé du SF1, ça pas duré très longtemps, hein, mais on a évoqué
Marco,
le petit-fils. Alors ça aurait été une première, avoir 3 générations de pilotes en F1.
Il n'y a pas eu Scheckter?
Non. Donc le fils de Jody Scheckter roule en IndyCar, mais pas en F1.
Qu'est-ce qu'il y a pu avoir d'autre?
Pense à l'Australie.
Brabham.
David et.
Et son frère là. Jacques Brabham, David et l'autre c'est. Non. Il y a Christian Fittipaldi, ça comme ça je le note.
Ça c'est un neveu.
Ah, c'est un neveu.
C'est un neveu. C'est un neveu.
Et Brabham, je me rappelle plus le nom de l'autre.
L'autre c'est Gary qui a roulé pour Simtech. Donc lui il a eu 2 fils en F1, ça aussi c'est unique. Alors, t'as trouvé en gros tous ceux qui étaient trouvables. Faut le dire.
Yes.
Puisque on compte aussi Tim Parnell, qui a roulé 4 grands prix en 1961, qui était le fils de Ray Parnell, qui est un pilote qui a roulé en fait entre 1950 et 1954. En fait, d'ailleurs, un pilote qui a plus roulé en F1 avant le championnat du monde. donc dans les années 46-50. Et le deuxième, c'est Teddy Pilet, qui est un Belge,
oui,
hein, qui a roulé en 1974, qui est le fils de André Pilet. Donc lui, là encore, un pilote des années 50-60. Donc voilà, finalement, il n'y a pas tant que ça, ce 11 sur, il doit y avoir plus de 700 pilotes qui ont roulé en F1. On constate quand même que, un, il y en a beaucoup, c'est des fils de pilotes, mais j'ai envie de dire aussi, c'est des fils de pas n'importe quel pilote.
Oui, voilà.
Hein, parce qu'on a quand même de Andretti, du Brabham, du Villeneuve. C'est-à-dire que théoriquement, dans 20 ans, on a plus de chances de voir un fils Schumacher, un fils Coulthard, je sais pas, un fils Hamilton, que un fils Yamamoto, quoi. Faut
oui,
bien le dire.
C'est vrai. Hein.
Comme quoi, même si ils s'en défendent.
On a déjà beaucoup le bol d'avoir Yamamoto en F1, donc faut pas pousser la chance pour avoir son fils.
Voilà. Donc même si ça ne t'offre pas un volant, c'est sûr que avoir un nom, ça doit ouvrir quand même certaines portes. Faut oui. bien le dire.
Maintenant après, on l'a vu avec Piqué, il faut savoir confirmer derrière.
Alors, c'est tout à fait ça, et c'est ce qu'on voit aussi hein, dans la liste, hein, c'est que quasiment bon, il y a eu Desmonil qui a fait aussi bien que son père être champion du monde. On peut dire que Jacques Villeneuve, il a quand même été champion du monde.
Bah, disons dans les statistiques, il a fait mieux que son père.
Mieux que son père. Voilà.
Et on a tendance à penser quand même qu'il a fait, on va dire, autant que son père.
On peut penser que Nico Rosberg peut faire aussi bien, voire faire mieux.
Oui.
Et ça, l'avenir nous le dira. Mais sinon, à part ces trois cas-là, on constate que, donc, un nom, ça t'ouvre des portes, mais ça ne te fait pas rester en F1.
Voilà.
Et puis, bon, dernier point que je constate, c'est que, à part finalement les deux que j'avais dit que tu trouverais pas, c'est quand même un phénomène extrêmement récent,
ouais.
Parce que quasiment bon, beaucoup les années 2000, mais on voit quand même que ça date des années 90 avec les Brabham, les Hill. Alors, c'est quelque chose quand même qui aurait pu arriver plus tôt, puisqu'on a des pilotes de F1 qui ont roulé dans les années 50, qui étaient plus vieux que les pilotes d'aujourd'hui. Donc on aurait pu imaginer avoir plus de pilotes, peut-être pas dès les années 60, mais dès les années 70. Pourquoi pas des Fangio, des Ascari, des choses comme ça, un peu. Hein.
Oui.
Et finalement, il a fallu attendre les années 90. Alors, moi, l'analyse, hein, c'est une analyse toute personnelle hein, que je fais. Je me demande si c'est pas beaucoup lié, alors, outre le côté marketing, faut pas l'oublier, l'aspect sécurité.
Ouais.
C'est-à-dire que beaucoup de pilotes d'aujourd'hui sont les enfants de pilotes qui ont roulé dans une F1 qui n'était pas aussi sûre qu'aujourd'hui, mais une F1 qui était relativement plus sûr que celle des années 50. Dans les années 50, se tuer en F1, je vais pas dire que c'était banal, mais c'était quelque chose d'assez courant.
Ça arrivait.
Donc on peut imaginer, bah déjà d'une part, qu'il y a beaucoup de pilotes qui se sont tués avant d'avoir des enfants, faut bien le dire. Deuxièmement, que pour beaucoup de familles, il est évident que quand un mari, un fils, un frère qui se tue en sport auto, t'as pas spécialement beaucoup envie que le fils ou même le neveu reprenne le flambeau.
Mais on a l'exemple de Bruno Senna.
Peut-être aussi un côté un peu comment dire. Les premiers pilotes des F1 étaient beaucoup des passionnés et comment dire, un sportif à l'époque, c'était pas un sportif comme aujourd'hui. Et ce que je veux dire, c'est que un pilote de F1 de l'époque devait sans doute se dire qu'il voulait un bon métier pour son fils.
Oui.
Là encore, c'est quelque chose qu'on peut retrouver d'une certaine mesure, par exemple avec Prost,
oui.
Le fils Prost, qui a dû attendre de finir ses études supérieures pour pouvoir vraiment se lancer dans le sport auto.
Mais je pense aussi, justement, pour rejoindre un peu ce que tu dis, je pense que ce qui est important aussi, c'est la période de la fin des années 70 et des années 80, où on a vraiment l'impression que la Formule 1 et, de manière générale, le sport automobile est devenu une sorte de microcosme. On sait très bien les anecdotes du fils Piquet ou du fils Rosberg qui étaient dans le paddock en suivant leur père. Donc il y a cette culture du milieu qui était peut-être pas le cas dans les années 50-60,
ouais.
Où on n'avait pas forcément les enfants qui suivaient les parents.
Donc voilà, c'était tout sur ce phénomène des enfants d'eux, des enfants de la balle, comme on dit dans le milieu artistique,
ouais.
Mais pour la F1. Donc, passons à la suite. Alors, bien évidemment, il va être difficile de faire un poleman de l'actu, j'ai envie de dire, tout seul.
Oui.
Hein?
Mais on peut déjà rassurer que voilà, c'est vrai que c'est difficile de faire un poleman de l'actu, puis c'est moins intéressant s'il n'y a pas de rivalité. Ce qui était intéressant, c'était la rivalité entre Enzo et Shinji. Donc c'est pas facile à restituer quand Shinji est tout seul. Mais on verra bien le jeu, hein, vous inquiétez pas, ne serait-ce que pour l'émission anniversaire, puisque on vous avait annoncé la dernière fois qu'on ferait un jeu spécial qui permettrait aux vainqueurs de ce jeu de venir participer au poleman de l'actu. On fera même mieux, puisque vu qu'on est tous les deux, bah, je pense qu'on peut dire que le vainqueur viendra tout simplement participer à l'émission du début à la fin.
Il faudra voir comment c'est la merde d'organiser cette émission. tout le bordel qu'il y a quand on enregistre.
Et donc on fera sans doute cette émission, ces émissions spéciales pendant la trêve après la Hongrie. Sans doute juste avant le Grand Prix de Belgique, et on fera donc le vainqueur participera à l'émission de Belgique.
Et donc faut bien remplacer.
Oui, parce que ça savait aborder l'actu. D'ailleurs, on a Sato Kamikaze qui nous a envoyé un mail pour nous dire que il regrettait un peu qu'on aborde moins l'actu que l'année dernière. Bon bah on va avoir l'occasion d'en parler.
Voilà.
On va vous faire un petit JT de l'actu.
C'est un peu la renaissance du JT du SAV. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau JT du SAV du 27 juillet 2010. Tout de suite, les titres. Alors, pour commencer, puisque nous parlions justement des fils 2, Dino, on va parler d'un fils 2 qui aimerait bien revenir en F1.
Oui, Jacques Villeneuve qui a défrayé la chronique il y a quelques semaines, puisqu'on a appris, comme vous le savez, que en 2011 il y aura une, voire potentiellement deux nouvelles écuries qui seront choisies prochainement par la FIA, ou peut-être pas, puisque la FIA a dit que peut-être il n'y aura pas d'écurie choisie face à la situation critique qui se trouve chez HRT. Et donc on a appris parmi les équipes, on sait qu'il y avait le nom de Art Grand Prix qui circulait, qu'il y avait celui de Epsilon Euskadi qui tient la corde, qu'il y avait celui de Durango, et on a appris le projet Villeneuve Racing. Youhou. Ouais. Alors, ce projet nous a un petit peu étonné au départ. On s'est dit, quoi, Jacques Villeneuve qui va se lancer dans une écurie alors que quand il va en NASCAR, il est incapable de trouver des sponsors pour financer plus de deux courses.
C'est vrai.
Eh ben, quand même, le projet était vrai. Et oui, vu qu'il est plutôt proche de Ivan Pinton, qui est le patron de Durango, qui est également candidate pour 2011. Les deux projets se sont rapprochés. Chacun avait ses déclarations d'intention de financement, avait ses projets. Et ils se sont dit que tous les deux, ils seraient peut-être plus forts, notamment face à Epsilon Euskadi, qui est une grosse candidature. Et donc voilà, ils ont décidé de faire un projet commun qui serait basé en Italie, avec le soutien des investisseurs venant des deux côtés. Comme je le disais, les deux parties se connaissent, puisque Villeneuve a fait un court séjour en Speedcar Series. Vous vous souvenez des Speedcar Series? En tout cas, c'était une série hivernale, hein, un peu piqué sur la NASCAR, avec des voitures typées NASCAR, et qui recyclait un peu tous les anciens champions. D'ailleurs, Johnny Herbert avait été champion. Et Villeneuve y avait participé avec Durango lors de la deuxième et dernière saison de ce championnat. Alors, côté des investisseurs, parce que c'est un peu surtout depuis que Villeneuve est arrivé, on s'est dit, mais comment il va payer? Parce que Villeneuve, c'est pas Schumacher, hein. Il n'est pas resté suffisamment longtemps, il n'a pas suffisamment trouvé de grosses équipes pour prendre le blé, hein. Ouais. Donc, on a parlé notamment de la présence du fils Kadhafi,
le guide.
Le guide, voilà, hein. On a cité le nom du fils Kadhafi, qui avait déjà été investisseur dans le club italien de la Juventus Turin, et qui est lié à la compagnie pétrolière d'État Tamoil, voilà, qui pourrait devenir un sponsor de l'écurie italo-québécoise. Côté pilote, on parle bien évidemment de Jacques Villeneuve, puisque Jacques Villeneuve ne monte pas une écurie pour monter une écurie, non. Jacques
Villeneuve... C'est quand même la deuxième fois, hein. Il y a eu Barre avant.
Oui, Jacques Villeneuve monte une écurie pour y avoir un baquet. Voilà, c'est il y en a qui s'achètent leur baquet, il y en a qui les construisent pour être dedans. Donc c'est ce que veut faire Jacques Villeneuve. Et à côté, on parle de Luca Filippi ou de David Valzecchi.
Moi, rien que le nom de Villeneuve Racing dans le paddock, ça me fait peur. Juste le nom, Villeneuve Racing. Mais ça fait vraiment équipe de, enfin, pas de jeux vidéo, mais équipe sur le net, quoi, tu vois, tu t'inscris, oh bah je veux mettre mon nom, puis Racing à côté, quoi. Alors ensuite, on va parler d'HRT qui a décidé d'abandonner Dallara. Enfin, Dallara les avait aussi un peu abandonnés.
Oui.
Hein, pour 2011.
Oui. Et ils ont trouvé un nouveau partenaire. Enfin, ils auraient trouvé, même si tout le monde dit qu'ils ont trouvé. Rien n'est encore officiel, mais Toyota serait de retour. Enfin, non. Toyota Motorsport sera de retour, puisqu'on se souvient que Toyota a donc quitté la F1, mais ils n'ont pas quitté leur usine.
Puisqu'ils se sont dit,
on a gardé notre usine pour développer d'autres projets de motosport. Et ils se sont rappelés pourquoi ils avaient quitté la F1, à cause de la crise. Et que, ils n'avaient pas non plus envie d'investir dans d'autres sports pour le moment. Ils se sont dit, ah, donc ça va laisser nos mecs tout seuls à l'usine, à rien foutre, mais que va-t-on faire? Eh ben, ils ont eu l'idée de passer, de devenir ce qu'est Dallara cette saison, de devenir un partenaire technique qui fabrique des châssis. Et donc, le partenariat consisterait à employer les hommes qui sont présents à Toyota Motorsport dans l'usine de Cologne, à les employer effectivement pour fournir des châssis. Et il y aurait déjà des contacts avec Pirelli pour les tests pneumatiques et donc avec HRT. À savoir que c'est un accord qui porterait sur 2011 et 2012 pour une valeur de 15 millions de dollars, je crois. C'est confirmé à la fois par Bruno Senna, par Colin Coles, le patron de l'écurie, et ouais, par Carabant lui-même, le propriétaire. Alors, il n'y aura pas de moteur Toyota, il y aura toujours un moteur Cosworth. Donc voilà, vous aurez des un peu comme BMW Sauber Ferrari, vous aurez HRT Toyota Cosworth, mais c'est pas grave, on est habitué.
Le plus drôle, ce serait que HRT coule et que Toyota rachète HRT, donc que Toyota revienne en F1, mais via HRT.
Non mais c'est vrai qu'en plus, alors faut rendre hommage à Sato Kamikaze qui nous avait déjà donné l'info il y a quelques semaines, avant même qu'on en parle vraiment sur les sites, il nous en avait parlé. Et en fait, moi je lui avais dit que non, par rapport à d'autres rumeurs qui avaient circulé, et surtout face à la situation de Carabande qui est endettée très largement, c'est peut-être aussi un moyen pour eux de maintenir leur écurie en s'associant avec un gros constructeur et donc faire plaisir à tonton Bernie, hein, obtenir de l'argent de lui, on ramène un peu Toyota quand même.
Mais qui sait, tu sais, avec la TF110 qu'ils ont faite cette année, imagine l'an prochain.
Après Brown, HRT.
HRT.
Avec Karun Chandok, champion du monde. Oui, parce que Chandok reviendra.
Alors, on va partir à Austin.
Oui. Pour rencontrer le circuit qui valait 3 milliards.
Ah, parce qu'il vaut 3 milliards?
Non. Des milliards de roubles. Oui, effectivement, on a appris aujourd'hui même, d'ailleurs, le projet de... Enfin, le projet... les bases du projet nous ont été dévoilées. Alors, on a maintenant résolu le mystère du lieu où se situera ce Grand Prix. Ça sera à côté de l'aéroport d'Austin, dans la périphérie sud, je crois, d'Austin. C'est un grand terrain qui devait accueillir précédemment un projet de 2000 logements.
C'est un terrain plat.
Ça, on s'en doute.
non mais c'est important. C'est un terrain plat.
Oui, mais on peut faire ce qu'on veut sur un terrain.
Tout le monde n'est pas chinois.
Donc ça c'était un projet immobilier qui devait accueillir 2000 lotissements, un projet qui a coulé, et donc le terrain a été récupéré. On n'a pas plus de détails, on sait juste maintenant qu'il y a un site, qu'il y a de l'argent derrière, le projet, disons, prend de la crédibilité. Maintenant, on a hâte de voir ce sera le circuit, on a hâte de...
Et on sait que Tilk dessinera.
Oui, et on sait qu'ils seront là pour 2012, parce qu'on leur a posé la question, Bernie Ecclestone lui a posé la question, il a demandé, est-ce que vous serez là en 2012? Et le McCombs, il a répondu... Nous sommes au Texas ici. Ok, d'accord.
D'accord.
Ok.
Donc, après le Texas, la Corée du Sud.
Oui, la Corée du Sud où Charlie Whiting s'est rendu pour visiter les installations et a confirmé l'enthousiasme du côté de nos amis coréens en pensant que le Grand Prix devrait bien pouvoir être organisé cette année. Décision officielle devrait être prise dans les prochaines semaines, plus probablement avant le Grand Prix de Belgique fin août.
Donc, après 2010, puisque la Corée c'est 2010, on va parler un peu de 2011 et des transferts.
Oui, les transferts. Bon, le marché est très calme, hein, pas de grosses surprises. Oui. On sait que chez Ferrari c'est bloqué, chez Red Bull c'est bloqué, chez McLaren c'est bloqué, chez Mercedes théoriquement c'est bloqué.
C'est bloqué.
c'est donc dans la deuxième partie du peloton qu'il faut regarder, avec sans doute comme clé des transferts le deuxième baquet Renault.
Ah, est-ce que théoriquement c'est le meilleur baquet restant?
Voilà. On sait que Vitaly Petrov a un contrat à durée limitée désormais, qu'il doit faire ses preuves jusqu'au Grand Prix de Hongrie, même si Renault précise que c'est un pilote important qu'ils espèrent garder.
Donc en gros, il a 5 jours.
Voilà. Ils sont prêts à le garder, hein, pour l'enveloppe surtout, quitte même à le garder en pilote essayeur, ce qui est intéressant vu qu'on ne fait plus d'essais. On imagine bien les manières russes, hein, donner 5 millions par an à Renault pour un pilote qui ne roule pas. Ouais. Alors, du côté quand même des transferts, Toro Rosso qui devrait garder ses pilotes. On a eu Buemi qui nous a
Buemi. Un peu le doute, ouais.
Tous les ans, il fait pareil, hein. Non, oui, je devrais rester, mais je ne confirme pas. Et puis deux jours après, oui, je confirme, en fait, je vais rester en 2011. Ce qui semble confirmer quand même les plans pour 2012, à savoir Weber dégage de Red Bull, Buemi monte chez Red Bull.
C'était ça qui était intéressant dans l'idée de Buemi chez Renault. C'était un choix. Oui. Aller chez Renault, attendre Red Bull.
Alors justement,
mais bon, ça devrait être Red Bull.
Justement, chez Renault, donc on a plus Buemi, hein. Mais Nick Heidfeld se rapproche.
Oui, on l'a vu.
On l'a vu le loup dans la bergerie, hein. Le loup, la belette.
Ouais, il est poilu comme un loup.
On a vu la belette dans le paddock.
Il y avait peut-être un repas gastronomie française ce jour-là.
Oui, voilà, sans doute. Bon, il y a toujours les noms qui circulent derrière, Sutil, dont l'avenir n'a pas été sécurisé chez Forcément. Hein. Et pourquoi pas Grosjean, qui a fait un retour remarqué en GP2.
On a parlé de Kobayashi aussi.
On a parlé de Kobayashi aussi, que Sauber espère garder.
Garder, bah oui.
Et enfin, niveau transfert, on a un transfert, encore une fois, on parle de transfert, c'est plutôt des confirmations qu'on a pour le moment. On a la confirmation de Barrichello, ça n'est pas encore officiel, mais...
Bah, en même temps, quand le pilote veut, quand l'équipe veut, il n'y a pas de raison que ça se fasse pas, quoi.
Donc, pour Sam Michael, c'est une formalité, donc, théoriquement, Barrichello sera encore là en 2011. Voilà, c'est à peu près tout pour les transferts.
Sinon, as-tu quelques news en vrac?
Oui, quelques news en vrac, pas forcément des news sur la F1. Vous vous rappelez donc que l'année dernière, à peu près à la même époque, BMW nous annonçait qu'elle quittait la Formule 1.
Oui.
Et depuis, le mystère pesait sur ses intentions sportives. Et nous avons appris aujourd'hui que BMW allait participer indirectement au championnat du monde des rallyes en WRC.
Et oui, c'est vrai.
Par le biais de Mini, le retour de Mini en WRC, en rallye. Mini qui participera avec la Clubman, je crois.
Qui participera
à quelques épreuves en 2011 et qui rentrera pour la saison complète en 2012. Toujours du côté des constructeurs allemands, Volkswagen, qui a fait un petit tour dans le paddock ce week-end à Hockenheim, afin de se renseigner sur les possibilités de motorisation en 2013. Bon, comme tous les constructeurs, il est venu pour imposer ses conditions, puisque la FIA suivra, je sais pas. Et enfin, une petite actu people, puisque vous aimez bien les actus people, donc je vais prendre ma voix people. Nous avons appris, grâce à Jessica Michibata, que Jensen et Jessica étaient de retour ensemble. Jessica a révélé sur son Twitter qu'elle était de retour avec son beau Jensen.
Mais ça fait le buzz.
Et ça fait le buzz. Et cependant, Jensen, lui, a envie de donner une leçon à Jessica en lui disant: attention Jessica, il faut que tu te méfies d'Internet, parce que Internet des fois c'est pas bien. Voilà.
Ouais.
Jensen qui a d'ailleurs révélé que sa famille avait découvert un nouveau Jensen. Un Jensen du quotidien, banal. Puisqu'il se consacre maintenant entièrement à la course. On se rappelle que c'était pour se consacrer à la course qu'il avait largué Jessica Michibata, ce qui lui avait réussi puisqu'il avait gagné des courses. là, il la reprend, Matt Barry pour le titre. Donc voilà, ça c'est tout pour les infos en vrai. Donc voilà, c'est tout pour le JT.
Donc bah, c'est tout pour le JT, on va passer au Grand Prix.
Ah non!
Bah quoi?
Même si t'es tout seul, tu vas y avoir le droit.
Oh non.
Le service après-vente de la F1 vous présente la question actu qui passe inaperçue. Youhou! L'actu! Où es-tu?
Alors, la question chinoise est toute simple. Pour quelle raison un ancien acteur de Deux Flics à Miami était-il présent ce week-end à Hockenheim?
D'accord. Donc, est-ce que c'est Deux Flics à Miami le film ou Deux Flics à Miami la série télé?
La série télé.
D'accord. Donc, c'est Don Johnson. C'est Don Johnson?
Non.
C'est l'autre, c'est le Black?
Non.
Ah merde, c'est un second rôle.
Honnêtement, tu vas dire beaucoup de noms d'acteurs avant de trouver celui-là. voilà.
Donc c'est plutôt chercher pourquoi il était là.
Voilà, c'est quelqu'un qui a joué dans Deux Flics à Miami.
Donc c'est un acteur. C'est en rapport avec son rôle d'acteur?
Qu'il
était là? D'accord. Donc c'est plus en rapport avec le sport auto. Oui. C'est peut-être quelqu'un qui possède une équipe?
Non.
Est-ce qu'il, outre être acteur, il est aussi pilote?
Oui.
Donc il est à la fois acteur et à la fois pilote, et donc il était là. Est-ce qu'il a participé à une course pendant le week-end?
Non. Il y a participé, il n'était pas pilote pendant la course.
Ah, il a participé à la course?
Et disons qu'il n'y a pas participé en tant que pilote.
C'est un acteur qui a, je sais pas, brandi le drapeau à damier, quelque chose comme ça?
Non.
Qui a remis un trophée?
Non.
Il était dans une des équipes parmi le staff?
Il a été dans le staff d'une des équipes, je peux même te dire, de Red Bull, il y a quelques années.
Il y a quelques années?
Ouais.
Et là, il n'était pas chez Red Bull?
Et là, il n'était pas chez Red Bull.
Mais il était dans une autre équipe?
Il n'était pas dans une autre équipe.
Qui, je sais pas, parmi les commissaires de course?
Il était parmi les commissaires de course.
Il y avait un acteur, un ancien acteur parmi les commissaires de course.
Lesquels de commissaires?
Commissaires de piste?
Non.
Ceux qui sont... Parmi les stewards?
Parmi les stewards. Et c'est pas un ancien acteur surtout, c'est un ancien pilote. Qui était le pilote quatrième commissaire ce week-end?
Oh, c'était un...
c'était un ancien acteur de Flic à Miami. C'était Danny Sullivan. Pour la question inaperçue, je ne pouvais rien faire d'autre que le commissaire qui passait inaperçu, l'homme dont on n'a pas entendu le nom du week-end. Ce pilote qui a jugé l'action des pilotes tout le long du week-end.
Qui a... Mais c'est le moins connu de tous les pilotes steward depuis le début de la saison.
Alors Danny Sullivan, il a commencé comme chauffeur de taxi à New York et il a reçu comme cadeau pour son 21e anniversaire une participation à une course sur le circuit de Snetterton en Angleterre. Alors ensuite, il a participé à la Formule 3 puis la Formule 2, hein, le schéma classique des pilotes en Europe, avant de se résigner à rentrer aux États-Unis faute de budget pour aller plus loin. En 82, il fait ses débuts au championnat kart à 32 ans, puisqu'il est né en 1950, et il va s'y manifester rapidement. Ça va lui permettre de revenir en Europe et de participer donc à la saison 1983 pour le compte de Tyrrell, aux côtés de Michele Alboreto. Alors, il a été imposé par Benetton, qui était le sponsor de l'équipe à l'époque, et qui souhaitait avoir un pilote américain. Alors, il n'a pas été ridicule, hein. Il a terminé 17e du championnat, avec 2 points, inscrits à Monaco, mine de rien. Au même moment, son coéquipier, lui, va finir 12e du championnat, va rentrer 2 fois dans les points, mais une de ces 2 fois, il va pas rentrer n'importe comment, puisqu'il va rentrer avec une victoire lors du Grand Prix des États-Unis.
Ah, en plus.
Qui est un peu le paradoxe puisque Benetton voulait un pilote américain, voilà, et il se trouve que l'écurie qui va gagner le Grand Prix des États-Unis, c'est cette écurie-là, mais pas avec le bon pilote. Voilà, donc par conséquent, son contrat ne sera pas renouvelé à la fin de la saison 83 et on ne le reverra plus jamais en Formule 1, en tout cas derrière un volant. Il va revenir aux États-Unis en kart, où il va connaître une très belle carrière puisqu'il va remporter 3 courses en 84 dès son retour, ce qui va lui valoir de signer avec la prestigieuse écurie Penske Racing, avec laquelle il va remporter la bagatelle de 12 victoires en 6 saisons. Il va remporter l'Indy 500 en 1985 et le titre de champion kart en 1988.
Quand même.
Il signera 2 autres victoires dans sa carrière dans des écuries de second plan en fin de carrière. En 94, à l'image d'Alain Prost, il va prendre une année sabbatique où il va commenter pour la chaîne ABC et ESPN. Il va également s'essayer à la NASCAR où la seule course à laquelle il va réussir à se qualifier, c'est le Brickyard 500 à Indianapolis en 1994. Une course qui va finir très loin. Et il va participer également quasiment au championnat de DTM et aux 24 heures du Mans, avant de revenir aux États-Unis en 95, où un crash va mettre fin à sa carrière en kart. Alors depuis, il est redevenu consultant auprès des médias américains, et il a participé au programme de détection des jeunes talents pour Red Bull. Il a notamment permis la promotion de Scott Speed chez Toro Rosso en 2006 et 2007, je crois. Il a fait, d'où ma question, il a fait pas mal d'apparitions à la télé, dont une apparition en tant que guest dans Deux Flics à Miami, où il interprétait un pilote de course accusé d'avoir tué une prostituée. Voilà. Il a aussi été, alors là, je parle à ton petit cœur de fan de jeux vidéo, Shinji, il a aussi été le héros d'un jeu vidéo en 1992 qui s'appelait Danny Sullivan's Indy Heat. Donc voilà, c'était pour parler de cet homme dont personne n'a parlé, pas même les commentateurs de F1 qui... On s'en est voulu éviter le nom parce qu'il s'était pas documenté. Voilà.
Pourtant, une belle carrière. Très belle carrière.
C'était un peu dommage de ne pas connaître finalement cet homme et surtout que les commentateurs en France n'aient pas saisi l'opportunité de faire connaître un pilote qui a pas une grosse carrière en F1, mais qui a une grosse carrière à l'extérieur. Et puis aussi souligner aussi le fait que on a eu Christensen un peu plus tôt dans la saison, je crois au Grand Prix de Chine. Là, on a un ancien champion kart. Je trouve ça assez intéressant d'avoir non pas seulement des anciens pilotes de F1, mais avoir des pilotes qui ont goûté à d'autres disciplines. Donc voilà, c'était la question actuelle qui passe inaperçue, à laquelle tu t'es pas trop mal sorti, Chini.
Ça va. Alors, on va passer à la cour.
Oui.
On va passer à la place du con.
Non.
Donc, cette semaine, place du con pour Vite Antonio Luzzi.
Oui.
Hein, qui a finalement, bon, sur la grille, a fini 21e. Mais il faut dire qu'il a même pas fini la Q1. Ouais. Puisque sa voiture a rencontré le muret. Je note quand même que, pour une Force India qui ne fait pas une Q1 complète, il est quand même plus rapide que Yamamoto, qui fait une Q1 complète.
Non, même Senna est plus rapide que Yamamoto, je crois qu'il a mis une seconde ou un truc dans le genre.
Il a mis une seconde 3.
Voilà.
Rien que une seconde 3. Donc place du con, mais en même temps, comment dire, il a pas vraiment eu le temps de se ridiculiser, puisque il s'est pris le mur.
Voilà.
Même si c'est vrai que les Force India n'avaient pas l'air super fringantes.
Bah, c'est d'ailleurs assez paradoxal parce qu'ils ont fait de... Sutil a fait le meilleur temps le vendredi matin, bon, dans des conditions spécifiques puisque c'était il pleuvait. Mais c'est vrai que ça a été assez surprenant que les Force India soient pas aussi bien qu'à l'accoutumée. Puisque même Sutil a été poussif en qualification.
Ouais.
En plus avec des pénalités, ça les a pas arrangés.
Oui, oui. Plus de pénalités pour Sutil, pour Di Grassi, pour Glock. Bon, en même temps, c'était beaucoup le fond. Bon, ça a pas trop changé. Et donc en pôle, pour une fois, bon d'accord, c'est encore eux, mais quel pôle.
Ah ouais, quel pôle. Ah ouais, non.
Quel pôle.
Mais c'était une Q3 passionnante, même si, faut être honnête, on a un peu vu que les deux, parce que j'étais vraiment sur notre planète. Même en course, on voit dans les meilleurs temps en course que ils étaient tous les deux clairement les deux plus rapides. Mais Alonso a vraiment dominé tout le week-end.
Oui, oui.
Et Vettel est parti chercher. Vettel, il a cette capacité à aller chercher le tour, quoi. C'est toujours été évident. L'an dernier, on le voyait faire des pôles en faisant qu'un tour. Il était capable d'aller chercher le tour. Et là, encore une fois, bah, il était capable, face à Ferrari qui était très très forte, capable d'aller chercher le tour, alors que Alonso semblait intouchable.
Puis même Alonso, parce que Vettel fait le temps, et ensuite c'est Alonso qui, en essayant de le battre, fini
à 2 millième.
C'est quoi 2 millième? Bah, c'est un bout d'aileron, c'est...
Qu'a dit Vettel en conférence après les qualifs. Il a dit, ce qui serait bien déjà, c'est de nous dire ce que ça représente concrètement 2 millième de...
2 millième, c'est...
Ça doit même pas être un quart de centimètre, quoi.
Et donc, les commentateurs de TF1 l'ont cité, hein, le précédent écart aussi faible, qui était aussi 2 millième, c'était en Italie 2006 ou 2007, ça doit être 2006, entre Raikkonen et Schumacher, c'était aussi 2 millième. Puis sinon, bon bah, il y a le plus petit, c'est 0, hein, c'est Grand Prix d'Europe 97, oui. Où ils ont été 3 avec le même temps, donc l'écart est de 0. Et donc c'était la 11e pole position pour Sébastien Vettel, déjà j'ai envie de dire, parce que 11 ça commence à faire un beau paquet.
La 6e sur 11 je crois, cette saison.
Cette saison, oui. Son problème c'est les départs, c'est pas les poules.
Ouais.
La 15e pole position pour Red Bull, la 170e pole position pour Renault, à une moyenne de 223,149 km/h, et donc ce temps de 1.13.791 et le deuxième en 1.13.793.
Voilà.
C'est pour des moments comme ça qu'on aime la F1.
Oui, bah ouais, c'est ce qui est beau. Enfin, c'est ce qui est quand même bien de d'abord qu'on ait remis la règle des qualifs à vide en Q3.
Oui.
Pas pour la pole à vide. Et que TF1, depuis quelques années, nous les diffuse. C'est quand même bien de diffuser une qualif avant la course. Ça permet en plus de se mettre un peu dans le rythme, quoi. Tu commences déjà par quelque chose qui est excitant. La bataille pour la qualif, c'est une partie intégrante de la course et c'est bien de la vivre.
Quelque chose à rajouter sur la qualif, des positions, choses comme ça?
Bah non, en dehors de symboliquement quand même la petite perf de Hülkenberg qui sort Schumacher de la Q3.
Un bon résultat global des Williams.
Voilà, tiens. Sortir Schumacher quand t'es faut être honnête, il y avait 6 pilotes allemands, mais tout le monde avait un petit peu que Dieu pour Schumacher. Après, je pense que Vettel venait en second. Rosberg était quand même un peu plus loin derrière. Vous imaginez bien Hülkenberg, Glock ou Sutil. Les Allemands, en ce moment, ils en ont un petit peu rien à carrer, quoi. Et là, c'est vrai que voir le Kaiser se faire sortir par le petit nouveau, quoi. En plus, managé lui-même par
Yves Weber. Passe à la course.
Et bien sûr, on peut déjà remercier tous ceux qui ont participé.
Oui.
Voilà, hein. Les quatre qui ont participé.
Et encore, le quatrième.
Alors, oui, parce que on a reçu donc des réponses de Bouchard, de Sato Kamikaze et de Fab007.
Ouais.
On a reçu une contribution de Steph Core, dont on vous parlera un peu plus tard, qu'on remercie et signaler quand même que Steph Core n'a pas voulu donner top 10 parce qu'il aurait descendu les pilotes Ferrari et qu'il ne voulait pas que son opinion soit mélangée dans l'opinion des auditeurs.
C'est son choix et c'est son droit et on doit le respecter.
Et donc, remercier aussi Bilo, qui nous a envoyé à la dernière minute sa participation. Alors, on va citer Bilo, même si, malheureusement, pas eu le temps de prendre son top 10.
Parce qu'avant, faut tout recompter et tout, et nous, faut qu'on dorme. Enfin,
voilà. On a vraiment reçu le mail de Bilo, tout l'enregistrement, donc, voilà. On va citer Bilo, mais, malheureusement, son top 10 ne sera pas comptabilisé, qu'il nous en excuse. En tout cas aussi, parce que la dernière fois, on avait fait
ah, oui.
On avait eu une contribution d'Iceman Air qui, fort heureusement, est en vacances actuellement.
Donc ça nous a pris moins de temps.
Non, c'est Iceman Air, si tu nous écoutes, on plaisante, bien sûr.
On t'apprécie.
Voilà.
Donc, on est cité. Mark Webber, qui a été élu 10e par les auditeurs.
Mais qui n'a pas été cité par nous, je pense.
Non, il a été cité que par les auditeurs, et je pense. Mais il y a Fab007, qualif moyenne, course moyenne.
Ouais.
C'est vrai qu'on l'a pas beaucoup vu. Hein, et Bouchard 7e, il m'a un peu déçu, alors qu'il a le talent et la voiture pour faire mieux. C'est vrai que course, transparente, j'ai même envie de dire assez peinard pour Weber.
Oui, parce que, c'est vrai qu'il a été décevant parce que l'écart avec Vettel l'a clairement dominé. Maintenant, je pense effectivement qu'il a aussi joué le coup. Il a joué confort, il a pas cherché à pousser. À un moment donné, il faisait des temps très très loin de ce qu'il a été capable de faire dans les 1:20 alors que les autres tournaient en 1:18, 1:19. Je pense qu'il a pas cherché, qu'il a pas forcément poussé.
Ont été cités aussi les deux pilotes Williams. Alors, Barrichello a fini 9e pour les auditeurs. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur Barrichello? Bien, c'est Sato Kamikaze qui l'a mis en fait 3e.
Oui. Hein. Et qui dit encore une fois une belle course pour sa Williams, mais pas assez pour être dans les points.
C'est vrai.
Que ça avait été leur fort lors des deux dernières courses, faire une bonne qualif et concrétiser. Là, elles ont refait une belle qualif, mais sans concrétiser en course, c'est un peu dommage.
Et sinon, l'autre pilote, Hülkenberg, a été cité puisque c'est toi qui l'as mis en 9e place.
Oui. J'ai bien aimé c'est sa qualification par rapport à Schumacher. Il a pas fait une mauvaise course, il a fait une bonne course. Il est tombé sur un bon Petrov. On a eu un beau duel de rookie entre Petrov et lui. Et puis je crois même qu'il y a Kobayashi juste derrière. On a eu quelque chose de sympa et moi j'avais envie de souligner ça. On a aussi Sato Kamikaze pour avoir tenu très longtemps face à De La Rosa avec des pneus super tendres.
Ouais, c'est vrai.
Ouais. Donc voilà, il a fait une belle course, il progresse, c'est bien.
Sinon, a aussi été cité, alors, c'est moi qui l'ai mis à la 10e place, hein.
Oui.
Il y a aussi, je ne suis pas le seul, il y a Sato Kamikaze qui l'a mis 8e, c'est Timo Glock. Voilà, alors, c'est bien simple, hein. Sato Kamikaze, il a mis le premier des petits, c'est un peu aussi ça, moi je l'ai mis 10e parce que je savais pas trop qui mettre en 10e place, je me suis dit, bon, après tout, c'est vrai qu'il a été le meilleur des petites équipes. Ça arrive pas souvent en plus à la Virgin.
La Virgin a souvent pêché par sa fiabilité.
Oui.
Ce qui a donné l'avantage à
Lotus.
Et il se trouve que là, la Virgin profite des problèmes de fiabilité de Lotus. Donc.
Voilà. Donc, maintenant, on rentre dans les points.
Ah. Oh, ne dis pas qu'il y a des ex-échos.
Eh bien, chose historique, cette semaine, il n'y a pas d'ex-échos.
Waouh.
Ouais. Alors que pourtant, vous allez voir que dans les votes, il y en a des ex-échos. Donc, à la 10e place, on trouve le pilote BMW Sauber Ferrari. La question c'est, vous dites, mais c'est lequel?
Kobayashi, je pense.
Oui, c'est Kobayashi que tu as mis 10e, que les auditeurs ont mis 10e sur la moyenne et que j'ai mis 9e. Prendre un peu ce qu'a dit Sato Kamikaze, hein, pour m'avoir longtemps fait rêver d'un 3e top 10 d'affilée, hein, pourtant cette Sauber elle vient de très très loin, s'il avait résisté à Petrov, il serait dans le top 10 avec sa modeste Sauber. Et Buchor aussi l'a cité, il a vraiment beaucoup donné, dommage qu'il finisse juste à la porte des points. Voilà, c'est un peu dommage, parce que voilà, il y a cette Sauber... C'est étonnant qu'elle marche de mieux en mieux. À croire qu'ils ont enfin récupéré des bons moteurs Ferrari qui flambent pas.
Oui.
Déjà. Et d'ailleurs, on remarquera que, enfin, non, ils ont pas plus de sponsors puisque ils se mettent leurs propres sponsors à eux pour mettre des anniversaires. Hein. Mais il y a un peu plus de, elle a un peu plus de couleurs, on va dire, cette Sauber. Un peu plus de gris.
C'est vrai que genre la voiture était déjà pas suffisamment triste. Ils ont pas trouvé mieux que nous mettre comme logo des 40 ans un logo argenté.
Argenté. Donc voilà, j'ai envie de dire sur Kobayashi. En même temps, je l'ai mis que 9e. Hein.
Voilà, mais bon. Non, c'est vrai qu'il fait, encore une fois, il fait une course solide. Voilà, ça peut pas non plus marquer à chaque fois, mais il tente, c'est bien. Il est là, il est à la porte des points. Ça fait plaisir de voir les. Moi, ça m'a fait plaisir de voir les trois roues qui se battent. Et en plus, ouais. Alors. J'ai un peu regardé des extraits de la course aujourd'hui et je suis retombé sur le premier tour et à l'épingle. Alors je sais pas si c'est lui ou De La Rosa, mais il y en a un qui a tenté un gros freinage, qui a doublé 4 ou 5 mecs en même temps. Et mais j'ai pas réussi à savoir si c'était De La Rosa ou Kobayashi. Donc voilà, par acquis de conscience, j'ai mis les deux dans les points et Kobayashi a été un peu moins bien que De La Rosa sur la course. Je l'ai mis derrière. Même si Kobayashi fait un très bon départ.
À la 9e place, c'est Robert Kubica sur sa Renault.
Ah bah c'est Steph Coeur qui va être content. Steph Coeur, et fallait voter si tous les qui soient plus haut. Hein.
Donc Kubica que j'ai mis 8e, hein, tout simplement, et que les auditeurs ont aussi mis 8e. Mais au final, ils se retrouvent 9e puisque toi, par contre, tu n'en as pas parlé.
Oui. Alors c'est aussi que Bilo l'a mis 5e.
Cinquième. Mais il n'a pas fait de remarque. Il a juste mis cinquième.
Non, il a juste mis cinquième.
Par contre, les trois auditeurs l'ont mis. Fab007 l'a mis 9e. Course moyenne. La Renault marque un peu le pas. C'est vrai que c'était pas la meilleure course des Renault cette semaine.
Ils avaient annoncé la couleur. Puis c'est vrai que même pendant les essais, assez paradoxalement, c'était Petrov qui avait l'air le plus à son aise pendant la course. Au lieu de Kubica, il a eu du mal à trouver le rythme vendredi, et je pense que ça se ressent sur l'ensemble du week-end. Oui, mais c'était attendu, hein, cette mauvaise forme, c'était attendu, et ils sont attendus au tournant en Hongrie où ils devraient être
mieux, ouais.
Plus à leur aise.
Un Buchor, pareil, 6e, toujours là malgré une voiture un peu moins compétitive que ses adversaires, et Sato Kamikaze qui l'a mis 7e, parce que je ne vois pas qui mettre. C'est honnête.
Tout à fait.
À la 8e place, le pilote allemand dans une équipe allemande, c'est Michael Schumacher. Ouf. Alors, pourquoi est-il 8e? Parce que moi, je ne l'ai pas mis. Hein. Et faut bien dire que Fab007 seulement l'a nommé.
Il l'a mis 7e et il a dit très bon départ, simplement.
Voilà. Bilo l'a aussi mis 8e. Oui. Mais pourquoi est-il 8e? Eh bien, ce que Dino, à quelle place as-tu mis Schumacher?
Je sais plus, je crois que je l'ai mis 5e, non?
Tu l'as mis 4e.
Oh la vache.
Ouais.
Non, mais dans une course où on n'a pas vu grand-chose, voilà, il fait... là, je trouve que avec une Mercedes où ils ont vraiment peiné tout du long du week-end, on a senti en qualification qu'ils étaient allés au bout de la voiture. Ils pouvaient pas faire mieux. Parce que je crois que les deux se tiennent en quelques millièmes, hein, et c'est à quelques millièmes seulement que Michael échoue en Q2. Il a fait un très bon départ. Voilà, il a fait un très bon départ. Il a fait une course solide. Il s'est retrouvé derrière Rosberg. Parce que Rosberg a reculé le plus tard possible son ravitaillement. Il est resté plus longtemps en pneu tendre, ce qui lui a permis de prendre un peu plus d'avance et de passer devant Michael Schumacher. Voilà, moi je trouve Michael, il a fait une bonne course. D'autres, voilà, encore une fois, je l'ai mis parce que j'ai remarqué plus de choses sur lui que sur d'autres qui étaient devant.
Alors, ensuite, on passe à la 7e place, avec le pilote russe, donc c'est pas compliqué, hein, puisqu'il y en a qu'un. C'est Vitaly Petrov. Que j'ai mis 7e, que tu as mis 8e et que les auditeurs ont mis 6e.
Oui, Alors, parmi les auditeurs, on a Bilo qui nous l'a mis 6e, on a Fab007 qui l'a mis 8e, en précisant sous pression, il marque des points, ce qui est vrai. Sato Kamikaze lui l'a directement mis 4e, joli déplacement puis joli résistance sur Kobayashi qui lui offre enfin un top 10. Je crois qu'il a déjà été dans les points Petrov, si je me trompe pas.
Dans les points, oui, il est déjà rentré dans les points.
Et enfin Bouchard qui l'a mis 9e en précisant qu'il rentre dans les points et tant mieux, il va en avoir besoin pour pouvoir espérer rester en F1 l'année prochaine. Je pense que c'est ça aussi qui nous a marqué, c'est qu'il a réagi, même si, faut être honnête, son niveau n'a pas forcément baissé, il a juste été un peu moins visible ces derniers temps. Il a réagi au moment où on attendait qu'il réagisse, à savoir au Grand Prix d'Allemagne, alors qu'on
lui donne... 5 jours.
Voilà. Alors d'ailleurs Renault a salué hein, cette prestation. Il a pas marqué que des points en championnat, il en a aussi marqué au sein de l'équipe. Même si Renault continue de mettre la pression pour dire voilà, faut qu'il tienne aussi sur la longueur, c'est pas maintenant, c'est pas une fois de temps en temps qu'il faut marquer des points, c'est quasiment tout le temps puisque la voiture le permet.
Puis ils ont des hauts objectifs, enfin si quand même des hauts objectifs.
Voilà, ils ont l'objectif de talonner, en tout cas d'essayer de battre Mercedes.
Battre Mercedes. À la 6e place, ça c'est une surprise. Est-ce une surprise ? En tout cas, c'est une nouveauté.
Ah.
C'est le pilote BMW Sauber Ferrari.
Ah.
Et donc, si ce n'est pas Kobayashi, puisque nous avons déjà cité Kobayashi, c'est bien l'Espagnol Pedro de la Rosa. Que j'ai mis... je l'ai mis 6e, oui. Comme les auditeurs, alors que toi, Dino, tu l'as mis 7e.
Oui.
Et alors, noté, pourquoi les auditeurs l'ont mis à ce niveau-là? Eh bien, il faut dire que Sato Kamikaze l'a mis carrément 2e. Oui, oui, vous entendez bien. 2e.
Je crois qu'il aime bien cette équipe, Sato Kamikaze.
Donc, De La Rosa, qui a eu le mérite de tenter une Kobayashi.
C'est vrai.
Alors, c'est quoi une Kobayashi? Parce que... C'est une tentative de dépassement.
Il y a aussi le pari avec les pneus, je crois. Il a tenu vraiment très très longtemps, quelque chose genre 35 tours avec les pneus super tendres. Puis faut rappeler ce
week-end. Oui.
On a une gamme de 1 à 4, si on simplifie, hein, super tendre, tendre, dur et ultra dur. Donc on a une gamme de 4 sur les pneus. Et là, on a utilisé les pneus super tendres et les super durs pour vraiment faire des écarts, ce qui a été le cas puisqu'il y avait à peu près 6 dixièmes. Et donc, c'est vrai que, avec les super tendres, on a quand même tenu 35 tours.
Faut dire que, bon, l'exemple, c'était le Canada, mais la piste n'est pas aussi abrasive qu'au Canada, donc, c'était moins impressionnant. Notez aussi, hein, que Sato Kamikaze parle de La Rosa sur ses belles bagarres avec les Williams, les deux,
oui.
Avant de s'accrocher avec une Lotus, parce que Kovalainen ne l'a pas vu, il s'est excusé. Alors que De La Rosa lui prenait un tour.
Bah, c'est vrai que ça fait plaisir de voir De La Rosa,
oui.
Figurer déjà, à ce niveau-là.
On sentait bien que la BMW, enfin la Sauber, marchait mieux, marchait bien. On connaissait le talent de Kobayashi, on se disait, enfin, c'est pas une surprise. Voir que, bah, même pour De La Rosa, ça va de mieux en mieux, c'est sympa.
Oui.
Puis c'est bien pour cette équipe, parce que celle-là, on veut qu'elle tienne, on veut qu'elle reste.
Puis c'est l'expérience aussi, hein, c'est vrai que De La Rosa, c'est c'est pareil, c'est un peu comme Schumacher, c'est un retour à la compétition. Parce que De La Rosa, il a eu une carrière de Formule 1, bon, moins longue et porteuse de fruits que Schumacher, mais il a quand même fait des podiums, il a roulé pour McLaren, pour Jaguar.
Pour Jaguar.
Et donc voilà, ça reste un pilote d'expérience, et ça fait plaisir quand même de voir ce pilote d'expérience, surtout dans cette saison où on a un peu c'était le cas l'an dernier, puisqu'on avait dit que Button et Barrichello, c'était les vieux de la vieille, un petit peu, qui venaient devant de la scène. Mais là, c'est encore plus le cas avec Schumacher, Barrichello qui est toujours là, alors que on prédisait qu'il serait plus là, De La Rosa qui revient et qui rentre dans les points, qui rentre pas dans les points, mais qui aurait pu rentrer dans les points. C'est bien.
On passe à la première partie du classement.
Ouais, de top 5.
C'est intéressant que tu le dises en anglais. Puisque c'est un pilote anglais. Dans une équipe anglaise.
Which one?
Alors, lequel?
Est-ce qu'il a un casque anglais ou est-ce qu'il a un casque jaune?
Oui, mais tu sais que sur le casque jaune, parfois, il y a le drapeau anglais.
Oui, mais l'autre, il est vraiment tout le temps anglais.
C'est celui qui est tout le temps anglais. C'est Jenson Button.
Button qui a d'ailleurs changé le design de son casque.
Oui, c'est les mêmes couleurs, c'est le glow, enfin c'est on va dire la même
JB en fait.
Voilà, c'est toujours JB.
Mais c'est un peu plus carré, moins.
C'est la rigueur allemande de Mercedes. Donc tu m'étonnes que j'ai mis 5e, que les auditeurs ont mis 5e et que toi tu as mis 6e.
Oui. Ça va, c'est pas... Bah j'ai mis Schumacher devant. Hein.
Voilà. Notez Bilo, hein, Button, hein, qui a battu son équipier en qualif. C'est vrai que ça arrive pas. Enfin.
C'était pas arrivé, je crois, depuis sa victoire au Grand Prix de Chine, je crois. Hein.
Dommage que son premier tour ne fût pas aussi parfait, mais il a bien géré ses gommes pour passer Weber. C'est vrai que ça, l'immense talent de Button.
Ça a été aussi à un moment donné un petit peu l'une des clés de la course. C'est comment va se comporter Button? Est-ce qu'il va gagner suffisamment de temps? Puisque au moment où lui il est en piste avec ses tendres, bon en fin de vie mais avec ses tendres quand même, les autres sont en piste avec des durs. Il a pas tenté un pari parce que bon en fin de vie les tendres fonctionnent moins bien. Mais il y a quand même entre 6 et 7 dixièmes de différence entre les deux sets de gomme. Et donc là on pouvait espérer qu'il tente quelque chose. Il a tenté, il a gagné une place effectivement sur Weber. Voilà, moi c'est un pilote que j'aime beaucoup, moi Button. Voilà, je me suis pas intéressé tant que ça à lui l'an dernier, mais cette année je l'aime bien. J'aime bien son esprit, j'aime bien le défi qui s'est lancé. Je trouve que c'est un défi à l'ancienne, quoi. Voilà, il a pas hésité à remettre vraiment en jeu sa couronne. Et ouais, j'aime bien ce pilote.
T1 chez Zoditel, donc pour Fab007, il l'a mis quatrième. Donc là, comme son coéquipier, hein, course tranquille, à hauteur de ce que sa voiture peut donner. Hein. Par contre, il souligne que Button a tenté des choses.
Il a tenté des trajectoires.
Des trajectoires au premier virage. Et Bouchard aussi, il l'a mis quatrième. Lui aussi trouve qu'il a fait une course un peu comme Hamilton.
Bah d'ailleurs, Bouchard,
on peut le dire, il a mis quatrième les deux pilotes.
Voilà, il a mis quatrième ex aequo.
Donc ils ont fait, non, une course solide avec une voiture un peu en retrait face aux Red Bull et Ferrari. C'est vrai que ils s'en sont très bien sortis, hein, McLaren, parce que c'est vrai que face aux deux autres, on les a pas finalement beaucoup vus. Le diffuseur soufflé, ils ont toujours autant de mal.
Bah, globalement, les Mercedes ont du mal, hein, que ce soit McLaren ou Mercedes elle-même, ils ont du mal. Et c'est peut-être pour ça aussi que pour le moment, on ne voit pas encore apparaître sur la Force India. Parce que voilà, on sait que c'est beaucoup lié à la cartographie moteur. On sait que le regain de Ferrari est dû au fait que Ferrari a trouvé une cartographie moteur qui permet, comme en WRC, de laisser ce flux d'air constant, ce qu'on expliquait la dernière fois. Et donc la Ferrari se comporte beaucoup mieux dans les courbes, est plus rapide. Et voilà. Et pour le moment, Mercedes a du mal à trouver ça.
On passe à la quatrième place.
Oui.
Et ben la quatrième place, tout naturellement. Si ce n'est l'un, c'est l'autre.
J'étais déjà en train d'écrire le nom tellement j'étais sûr que ce soit lui.
Hein, c'est donc, vous en doutez, Hamilton, que j'ai mis quatrième, c'est-à-dire une place devant Button. Dino, tu l'as mis cinquième, une place devant Button. Et les auditeurs l'ont mis quatrième, une place devant Button.
À noter du côté des auditeurs, donc Bilo nous l'a mis troisième. Tout s'est joué au premier tour pour lui, il s'en est parfaitement sorti.
Et il l'a mis une place devant Button.
Oui. Fab 007 déclare qu'il l'a mis troisième, déclare course tranquille au pied du podium, à la hauteur de ce que sa voiture peut donner en ce moment. C'est vrai qu'il faut rajouter aussi pour Hamilton, c'est qu'il n'a pas eu un week-end facile puisque il a démonté l'arrière de sa voiture le matin et qu'il a loupé une bonne partie de la séance de l'après-midi. Heureusement pour lui, c'était une partie où la piste était humide, alors qu'il a pu rouler vers la fin de la séance sur une piste sèche, mais bon, il a fait que 6 ou 7 tours, je crois. C'est quand même très fort ce qu'il a réussi à faire ce week-end à Hamilton. Et on a Bouchard qui l'a mis quatrième et qui nous déclare impossible pour moi de partager les deux pilotes McLaren.
Ah, oui, voilà,
et qui, effectivement, a déclaré qu'ils avaient fait une belle course, comme pour Button.
Belle course d'ensemble des McLaren.
Oui, voilà, c'est la force de cette équipe qui, on l'avait déjà dit la dernière fois, qui est bien gérée, qui pour le moment, n'a pas de tension, qui avance comme un seul homme parce qu'ils savent que,
voilà. Et ils accumulent les points. Hein.
Voilà, ils savent qu'ils n'ont pas les moyens pour le moment d'être en performance devant Red Bull.
En tout cas, pas tout le temps.
Pas tout le temps. Hamilton répète depuis plusieurs jours qu'ils sont même la troisième force du plateau derrière Ferrari. Et ce week-end lui a donné raison, même s'il faut peut-être attendre encore quelques courses avant d'être définitif sur ça. Et voilà, ils saisissent toutes leurs opportunités. Le Grand Prix d'Angleterre avait déjà été une très belle opportunité. Là, il se trouve que leur rivaux marque un peu plus de points, puisque Ferrari se place, Vettel se place, mais ils reprennent des points sur Weber et au final, ceux qui confortent leur place au championnat, c'est Hamilton et Button.
On va passer au podium.
Yes, le podium. Alors là, le podium, du suspense. Je ne connais pas le podium, mais avec les affaires d'eux, il y a du suspense.
En troisième place, nous avons Sébastien Vettel.
Ah! Donc on va pouvoir choisir un pilote Ferrari pour le faire passer premier.
Que j'ai mis troisième, que Dino a mis troisième, et il se retrouve premier pour les auditeurs. Puisque c'est tout Camille Gaz l'a mis premier, Fab 007 l'a mis deuxième et Buchan l'a mis troisième.
Et Bilot, alors Bilot qui n'est pas dans le classement, mais Bilot n'aurait pas changé de classement puisqu'il l'a mis deuxième.
Donc, qu'on dit les auditeurs sur Vettel. Donc Fab 007, encore une fois, départ loupé, mais il a mis la pression sur les Ferrari tout au long de la course. C'est vrai que c'est quasiment le seul pendant la course qu'on a vu rouler dans le même rythme que les Ferrari.
Bah, il a été, je crois, au maximum à 5 ou 6 secondes, alors que les McLaren étaient déjà à 20 secondes. Très fort ce week-end.
Bon, pour Sato Kamikaze, belle course, malgré un départ foiré, rien d'autre à dire.
Oui.
Et Buchor, rapide comme toujours, mais il mérite cette troisième place après s'être trop focalisé sur Alonso au départ. À noter que c'est la deuxième fois d'affilée qu'il fait la même bêtise. En faudra-t-il une troisième pour qu'il comprenne son erreur? Oui. C'est vrai que Vettel, quand même, il part premier. Il part quand même sur... Enfin, quand tu pars premier, t'as quand même l'avantage d'être sur le bon côté de la piste.
Oui, mais apparemment, chez Red Bull, ils sont pas confiants dans leur démarrage. Et Red Bull aurait un peu plus de difficultés au démarrage. Et c'est peut-être pour ça que Vettel se concentre un peu plus sur...
Non, parce qu'il a cette fâcheuse tendance quand même à braquer en fait tout de suite et aller sur le mauvais côté de la piste.
Bah,
je veux dire Massa, on l'a vu en vue intérieure, on lui a ouvert la porte.
Ah oui, bah oui.
Il a fait un bon départ, il voit Vettel se barrer et c'était un boulevard.
Ouais. Bah d'ailleurs, c'est ce que dit Bilot, hein, qui l'a mis deuxième, il dit il s'est battu en qualif mais encore une fois, il ne se concentre que sur un pilote, oubliant Massa, et il a éclipsé Weber tout au long du week-end.
Faut qu'il se concentre sur lui-même.
Depuis qu'il sent quand même, c'est vrai qu'il sent que ses chances au championnat sont en train de réduire petit à petit, il fait des bêtises. Là, il avait quand même une occasion en or de prendre des points sur McLaren et sur Weber, de laisser les deux Ferrari derrière lui ou au moins une.
Et c'est encore des points qu'il perd, hein.
Voilà, c'est vrai qu'il perd, c'est lui qui fait la bonne opération. Il l'a dit, la priorité c'était d'être devant les McLaren. Mais entre être devant et avoir deux pilotes Ferrari derrière et être devant, mais juste devant et ne prendre que 3 points à Hamilton et 5 à Button et 7 seulement à son coéquipier, c'est pas suffisant. Faut vraiment qu'il aille chercher plus. Ce genre d'erreur montre qu'il n'est pas encore totalement mature, alors qu'il avait montré des signes d'une maturité assez étonnante pour un pilote de son âge.
Mais là, il semble moins serein, peut-être pas moins mature, mais moins serein.
Mais je pense qu'en fait, je fais souvent la comparaison, mais je pense qu'il fait les erreurs qu'a fait Hamilton fin 2007. Voilà. Fin 2007, Hamilton, il a senti peu à peu la pression monter face au titre. Voilà, on sait souvent, ça arrive, on en parle souvent au tennis. Quand un joueur au tennis est en train de gagner le match, et tout d'un coup, il sort du match, parce que tellement une sorte de peur de gagner, et ben il commence à perdre des jeux, et puis un jeu devient un set, puis un set devient 2-7, et puis ça se finit au cinquième set, et là, t'as plus le contrôle du match. Et je pense que il sent qu'il a la voiture pour être champion. Il se sent peut-être lui aussi en forme pour être champion. Et peut-être qu'il se met un peu la pression et qu'il veut trop en faire. Un peu à l'image de ce que faisait Hamilton en fin de saison 2007, trop en faire. Et en même temps, plus tu fais d'erreurs, plus ça ne doute. Je pense que ça commence à cogiter dans sa tête. Et quand on voit comment Hamilton s'en est sorti par la suite, je suis pas inquiet pour la carrière de Vettel.
C'est sans doute un des pilotes, s'il ne gagne pas, qui pourra avoir le plus de regrets. On passe au gros morceau. Alors vous vous en doutez, évidemment c'est forcément eux deux qui ont fini parmi les deux premières places.
Oui.
Mais
alors la question c'est, est-ce que les auditeurs ont suivi le résultat de la course ou est-ce que ils ont suivi le résultat de ce que ma banque appelle le résultat moral de la course?
Eh bien vous avez décidé de choisir la moralité.
Oh non, mince.
Puisque Fernando Alonso a fini deuxième. je l'ai mis deuxième. Les auditeurs l'ont mis troisième, parce que forcément, comme ils ont mis Vettel premier, et... enfin, dis donc, on va dire que, pour une fois, tu te mouilles énormément, puisque c'est un fait exceptionnel. Je dois bien avouer que si on avait été sur une autre course, j'aurais renvoyé un mail à Dinon en lui disant « Non, tu peux pas faire ça. » Mais que là, vu les circonstances...
Ça se justifie.
Ça se justifie. Puisque Dino a mis... Massa et Alonso, ils ont mis tous les deux à la première place.
Ex-aequo.
Ex-aequo. Alors, tu m'as mis quand même dans ton mail, tu m'as dit « S'il faut choisir, j'en choisirai. »
Oui.
Je choisis. Alors moi, ce qui m'intéresse, c'est justement si tu devais choisir, qui tu mettrais premier.
Bah, disons que je pense que si j'avais choisi, peut-être que Massa n'aurait pas été vainqueur. J'aurais mis Alonso.
J'aurais mis Alonso. Alors, je vais te dire, on valide, hein, on ne touche plus,
oui, non,
au,
on touche
plus classement.
Au classement.
On ne touche plus au classement. Si tu avais mis Massa deuxième,
oui.
Sachant que comme tu les as mis premier ex-aequo, ils ont tous les deux 25 voilà. points, parce que c'est la règle qu'on applique. Hein. Eh bien, sache que si tu avais mis Massa deuxième, eh bien, Massa finissait quand même
ah,
premier.
Ah, voilà. Donc, ça ne change rien, bon.
Voilà, ça ne change rien. Quant à Alonso, quant à Massa, donc, justement, donc, tu l'as mis premier ex-aequo, je l'ai mis premier. Et donc, les auditeurs l'ont mis deuxième, bien évidemment, parce qu'il y a le décalage. Alors, puisqu'on va faire quelque chose de plus global.
Oui.
Commençons d'abord, peut-être, à ce qu'il y avait avant, c'est-à-dire avant la polémique.
Oui. Bah, disons que...
Ouais, le départ, juste le départ, tout simplement.
Honnêtement, moi, je les ai mis, ex-aequo parce que, voilà, les deux pilotes ont été très forts. Alonso a dominé le week-end sur l'ensemble, mais en même temps, c'est vrai qu'il mérite pas vraiment. Enfin, je vais pas dire qu'il mérite pas la victoire, j'aime pas ça. Mais c'est vrai que sur la physionomie de la course, il devait être deuxième plutôt que premier.
Oui.
Mais il a pas non plus volé le fait d'être premier. Et en même temps, Massa a été moins impressionnant en qualif. C'est vrai qu'il s'est qualifié troisième, mais c'est quand même loin de ce qu'a fait Alonso. Il a pas su aller chercher autant qu'Alonso, mais il a profité, il s'est retrouvé en tête et il a été très solide en tête. Voilà, donc je voyais pas pourquoi j'aurais mis Alonso parce que sur la performance du week-end, Alonso a été plus fort que Massa, je trouve. Maintenant, c'est une course d'équipe qui a été faite. Donc voilà, je donne le résultat d'une course d'équipe. Les deux ont été très très bons. J'ai envie de saluer les deux. J'ai aussi envie de critiquer les deux. Voilà, vu ce qu'a fait Ferrari ce week-end. En termes sportifs, j'ai pour principe de, si vraiment il y a une domination comme ils ont dominé ce week-end, parce qu'ils ont dominé ce week-end, s'il y a une domination, j'ai pour principe de ne pas retirer la victoire. Voilà, sauf si vraiment il y a quelqu'un d'autre qui s'est vraiment fait remarquer derrière, mais là j'ai pas envie de la retirer. Voilà, j'avais pas envie de choisir un vainqueur, et quand j'ai vu que Buchor avait mis des ex-aequo, je me suis dit, bah pourquoi pas les mettre moi aussi ex-aequo.
Donc, on peut noter déjà un départ, Massa, on lui a ouvert un boulevard, on l'a dit.
Et Alonso, on lui en a fermé un.
Lui, on lui a fermé un boulevard.
Parce que
même si finalement il finit quand même à part passer Vettel. Hein. Donc après, jusqu'au 49e tour, il n'y a pas non plus grand chose à rajouter, hein, puisqu'on l'a dit, la course n'a pas été.
Il y a eu du yo-yo.
Incroyable. Il y a eu du yo-yo.
Il y a Alonso.
C'est vrai qu'il y a un moment où Alonso était assez
voilà,
près.
Il y a même eu un dépassement, puisqu'Alonso a dépassé oui. Massa. Et c'est là où il y a eu la fameuse phrase après où il a dit que c'était ridicule. C'est vrai que même dans pour lui qui a toujours été numéro un dans ses équipes et même dans la philosophie Ferrari ces dernières années qui a souvent eu un numéro un et qui a souvent privilégié un pilote, même Raikkonen Massa, hein, on se rappelle l'histoire où on avait convoqué Massa pour dire écoute maintenant tu roules pour Raikkonen en 2007, on avait fait l'inverse pour Massa en 2008. Voilà, dans cette logique là, oui c'est pour Ferrari c'est ridicule que de se battre tous les deux en tête pour la course. Et d'ailleurs beaucoup ont critiqué cette phrase-là. Je rappelle quand même que on a quasiment tous dit que lors du Grand Prix de Turquie, c'était ridicule de voir les deux pilotes en venir à cette extrémité-là. Les voir se battre, oui, c'est bien, mais les voir se battre jusqu'au point de se toucher, voilà, c'est moins bien. Et connaissant le tempérament,
en même temps, c'est des grands garçons.
Voilà, connaissant le tempérament d'Alonso, une lutte pour la première place, que ce soit son coéquipier ou pas, ça pouvait pas être joli.
Alors, avant de parler de ce fameux 49e tour, hein, on vous l'a dit, on a une contribution audio
de
Steph Corr. Et donc, bah, bien évidemment, ça parle du cas Ferrari et bah, on vous la passe tout de suite.
Bonjour Dino, bonjour Shinji, bonjour Enzo. Je tenais à donner mon avis sur ce qui s'est passé au 49e tour du Grand Prix d'Allemagne sur ce que j'ai pu lire et voir sur différents sites. Et vraiment exprimer, ouais, mécontentement et le dégoût que j'ai à voir qu'on doit assumer le fait que peu importe les règles, tous les moyens sont bons pour arriver à ces buts. On dépense des millions d'euros, voire des centaines de millions d'euros et on a un but et peu importe l'esprit, l'éthique, l'honneur, le seul principe c'est d'arriver à ses fins. Pour moi, c'est vraiment pas le sens moral que j'ai. J'écraserai pas, je marcherai pas sur la tête de quelqu'un pour arriver à mes fins, je viendrai pas à contredire ou à enfreindre une règle ou une loi. Après, c'est le sens moral de chacun. Pour moi, le sport, on part sur un principe d'équité, on a un règlement le même pour tous, on l'applique. Que le meilleur ou non gagne, c'est celui-là qui est en tête qui gagne. Les consignes d'équipe sont interdites, on se doit de le respecter. Moi, ça me révulse. Je sais pas, pour la plupart d'entre nous, ceux qui écoutent, ils ont eu des principes d'éducation. Nos parents viennent à nous faire comprendre que dans la vie, on a des lois, on les respecte. Et le simple fait d'enfreindre une loi ou un règlement, c'est pour moi la définition même de la malhonnêteté. Donc si on en vient soutenir le principe qu'on a pu voir des décisions de Ferrari et de laisser Alonso passer et Massa ralentir pour le laisser passer, et que c'est consigne d'équipe et qu'on essaie personnellement de voir une règle enfreinte et de se dire qu'on la comprend, dans ces cas-là, c'est que soi-même, on est en accord avec une malhonnêteté directe, et on peut pas être honnête à 100% soi-même. On a des principes de base, mais on se doit des principes d'éducation qu'on doit se respecter. Le sport, la F1, a une représentativité publique. C'est un exemple qui est donné à toutes les générations. C'est peut-être gentillé et moralisateur ce que je suis en train de dire, mais c'est réel, c'est vrai. Moi, j'ai pas envie que ce soit mon entourage, les enfants de bas âge que j'ai dans mon entourage qui voient cela et qu'on vienne à leur confirmer dans la butte, hein, tu t'en fous des autres, t'avances, tu marches sur les autres, t'enfreins les règles, si t'as un but, tu fonces. Ça me révulse, ça me dégoûte. On en arrive à un statut désormais simplement égoïste, peu importe, t'as de l'argent, t'as les moyens, tu fonces. Non, le sport a une éthique et il se doit de la respecter. Quel intérêt, quel respect on peut porter à un sport si on n'applique pas correctement les règles? Moi, pour ma part, j'étais vraiment attaché à Renault. Ce qui s'est passé avec le Laguette, si Renault avait pris 2 ans ou 3 ans de suspension, j'aurais compris, ça aurait été normal. Moi-même, sincèrement, je suis plutôt dégoûté qu'il soit en F1. Et si vous pouvez voir dans mes commentaires ou autres, je vais soutenir le pilote Renault, non parce qu'il est pilote Renault direct, c'est parce que c'est Kubica ou Petrov que j'aime. Mais le fait de Renault, désormais, sincèrement, le team, c'est pas que j'en ai rien à foutre, mais quasiment, quoi. Il aurait été éliminé, ça aurait été bon. Désormais, on voit des actes qui se produisent assez régulièrement. Et je tenais à dire que je tenais simplement à remercier M. Michael Schumacher qui, dans les années 2000, a pu nous faire découvrir qu'on pouvait enfreindre plusieurs règlements. Il a été sanctionné soit, mais ça a été beaucoup tardif. Moi, personnellement, j'avais arrêté un peu la F1 en 2002 du fait de ce qui s'était passé entre Barrichello et Schumacher, de voir que ça avait fait réagir. C'est vrai qu'il y avait eu des réactions dans les médias autres, mais ça avait été mineur par rapport à ce que j'ai pu lire sur les commentaires de fans, à dire que c'était tout à fait normal. Désormais, on a simplement eu, pour les jeunes générations, son héritage. On a des Alonso, on a des Hamilton, et on aura d'autres pilotes derrière qui vont s'amuser à jouer avec le règlement. On aura des teams qui vont s'amuser plus ouvertement à vouloir, quelque part, truquer les courses. Et c'est simplement ce qu'on lui doit. Dans les années 80-90, on a eu des actions litigieuses. Mais ça n'a jamais été aussi régulier qu'on peut le voir depuis quelques saisons. Alors moi, pour ma part, j'ai jamais été un grand fan de Ferrari. Je respecte tous les fans tifosi. On a des élans du cœur qui ne choisissent pas forcément. Mais ce qui m'embête, pour moi, Ferrari, ça, depuis longtemps, pour m'y être intéressé un peu dans l'histoire, il n'y a aucun team qui soit désormais blanc comme la neige dans le sport, mais ça me dégoûte réellement. Et Ferrari, pour moi, depuis longtemps, la teinte de leur carrosserie représentait le rouge de la honte. Ils nous l'ont prouvé encore plus ce week-end et ils ont simplement réussi à ternir un petit peu plus la teinte de leur carrosserie. Ça me désole. Je vais attendre la décision qui va être donnée dans les prochains jours. Je me fais guère d'illusions, il y a tellement de collusions ou autres que, bah, comme pour le Liegate de Renault, ça risque de passer à l'as et on n'aura aucun déclassement. Je le pressens comme cela. Si Alonso arrive à être champion du monde, bah, sincèrement, je vois pas d'intérêt à regarder de la F1 et de voir des courses manipulées. C'est horrible. Alors après, à chacun sa conscience. Moi, bon, en tout cas, j'ai la mienne, ce n'est que mon avis. Je respecte l'avis des autres, même si c'est en contradiction avec avec mon fond de pensée. Mais voilà, c'était simplement un avis personnel. Je vous remercie bien. Donc, je vous souhaite une très bonne continuation de votre émission. Longue vie au SAV.
Donc voilà, c'était la réaction de Steph Corr.
Ouais, parce que elle est vraiment très belle. Puis ça, en plus, ça dépasse le cadre de la F1. Parce que on peut parler d'éthique. C'est vrai qu'actuellement, dans le sport en général, c'est quelque chose qui manque. Il y en a de moins en moins. Non, Steph Corr, c'est pas de la naïveté, parce que bah, faut qu'il y ait des gens comme toi. Moi aussi, je partage beaucoup ce que tu penses. Il faut avoir cet aspect un peu naïf pour espérer que ça revienne, espérer en tout cas arrêter ce genre de choses, parce que comme toi, hein, bien évidemment, j'ai trouvé ce qui s'est passé dimanche extrêmement scandaleux. Hein. Je veux dire, ne serait-ce qu'il y a deux semaines, hein, j'avais un peu pris la défense de Weber, donc vous doutez bien que ce qui s'est passé dimanche... J'ai un peu en travers de la gorge.
Si tu as, entre guillemets, respecté le résultat sportif, en gardant les deux, sans pénaliser les pilotes Ferrari pour autant, t'as laissé les deux pilotes aux deux premières places.
Oui, parce que juge que, voilà, Alonso méritait quand même cette deuxième place. J'ai pas voulu plus le sanctionner. Voilà, il méritait quand même pour moi d'être deuxième, mais certainement pas premier. Il y a toujours ce problème, alors oui, en F1, il y a des pilotes numéro 1, il y a des pilotes numéro 2. Hein, faut pas être hypocrite, c'est pas dans toutes les équipes, mais plus ou moins quand même dans la grande majorité des équipes. C'est vrai que moi, l'idée que je me fais d'un pilote numéro 1, pilote numéro 2, c'est... oui, ça peut être quand il y a une nouvelle évolution, on le donne d'abord au pilote numéro 1, puis ensuite au numéro 2, des choses comme ça. Ou à la limite, s'il doit y avoir des consignes, c'est pas des choses en course. C'est à la limite, on dit au pilote, écoute, si tu vois que celui qui est derrière toi est plus rapide que toi, tu essaies de voir si peut-être c'est pas mieux de le dépasser. C'est vrai que je peux être plus tolérant par rapport à ce genre de choses quand c'est en fin de championnat. Mais pas à 9 courses de la fin. Quand il reste que 2-3 courses, qu'en effet, il y a vraiment le titre qui se joue. Là, je peux être pas l'accepter plus, mais être plus tolérant. Et vraiment dans des cas où, oui, c'est un titre qui se joue, pas plus. Là, les pilotes téléguidés, parce que c'est ça, hein, consigne de course, hein, c'est le pilote téléguidé, hein, puisque finalement, on nie au pilote d'être un pilote, puisque on a enlevé cette victoire à Massa, qu'il méritait. Je veux dire, au vu de la course, il l'a mérité. Je trouve ça horrible, en plus, que ça se passe au 49e tour, c'est-à-dire que il fait son effort pendant les deux tiers de la course, et on lui dit, enfin, on lui dit pas, bien évidemment, de se faire dépasser. On lui fait comprendre, c'est plus vicieux. C'est sans doute la ligne de défense, quoi, à Ferrari, de dire que ils n'ont pas explicitement dit à Massa. Mais évidemment, on n'est pas idiots. On sait bien ce qui s'est passé. Que dire de plus, parce que là mes idées viennent vraiment très pêle-mêle.
C'est justement ça qui est intéressant dans ta réaction, pour ça que généralement je coupe, mais là surtout en plus j'ai de la chance de te voir, donc je te laisse parler, parce que c'est vrai que c'est là c'est vraiment une approche du sport, et je vais faire une phrase à la Gérard Rolls, mais c'est vrai que quand on voit ce genre de choses, on a mal au sport. On regarde du sport avec notre cœur d'amateur, et malheureusement le sport qu'on regarde, parce que c'est le sport qu'on nous donne à donner, c'est du sport professionnel où il y a des enjeux financiers, où il y a plus que le sport qui se joue. C'est vrai qu'on tape sur la F1, mais que dans tous les sports il y a ce genre d'histoire. en GP2 ou en WTCC, on a deux courses dans le week-end lors du départ de la deuxième course, et c'est la grille inversée du résultat de la première course. Et il est pas rare de voir des pilotes qui sont quatrième ou cinquième se laisser couler jusqu'à la huitième place pour être en pôle à la deuxième. Et c'est vrai que c'est triste de voir ça. Et en même temps, chez nous, ça conduit à des paradoxes. Dans ce que tu dis, Shinji, j'en ai noté trois paradoxes. D'abord, il y a le paradoxe où tu dis que, et c'est vrai que c'est une réaction qui est assez courante, et je suis le premier à le regretter, c'est la forme. Le paradoxe de comprendre qu'il y a un numéro 1, oui. De comprendre qu'une écurie favorise un pilote, mais en même temps, ce refus, qui est même un refus de la FIA, ce refus que ce soit, entre guillemets, assumé. C'est ça le paradoxe, c'est que on dit que, à la limite, on aurait préféré que ça se fasse le matin au briefing, qu'on se mette d'accord, qu'on prévoie le coup, qu'on dise voilà, ça, maintenant t'es. Mais ça revient au même. C'est juste plus acceptable, parce que plus joli à regarder, parce que dans la course, ça se voit pas. Parce que finalement, on le sait pas. Donc je suis pas en train de dire que c'est bien de. Je suis le premier, je suis fan de Ferrari, j'aurais dû être super heureux d'avoir un doublé. Je préfère en plus chez Ferrari Alonso à Massa, donc j'aurais dû être content de voir Alonso gagner. Maintenant, c'est vrai que. Voilà, ça me fait mal en tant que tifosi. Mais je note cette premier paradoxe. Deuxième paradoxe, je monopolise un peu la parole, Shinji, excuse-moi. Tu parlais de tolérance, tu disais il y avait une certaine tolérance à ce que ça se fasse en fin de championnat. La Ferrari, ils sont dans une situation où, on l'a dit depuis plusieurs émissions, ils sont dans une obligation de résultat pour le championnat constructeur, où ils sont complètement largués. Et où, si on est un petit peu honnête, il n'y a qu'un seul des deux pilotes qui peut jouer la gagne. Il y a ce paradoxe de dire qu'on tolérerait si ça se joue pour un titre, si ça se fait en fin de saison. Mais là, pour Ferrari, les deux courses qui viennent, c'est la fin de saison. Pour Ferrari, le championnat, il peut très bien se terminer au prochain Grand Prix. En tout cas, le championnat pilote. Là, ils ont maintenu leur espoir pour le championnat pilote. Et ensuite, autre petit paradoxe, là c'est juste un argument qui va me permettre de rebondir sur Massa. Tu parlais de pilote téléguidé, aux dernières nouvelles, Massa il a pas une puce dans le cul qui fait que quand Ferrari lui dit « tu te laisses passer », ça allume une petite décharge de courant et son cerveau se règle pour qu'il appuie sur le bouton, pour qu'il appuie sur les freins. Je trouve pas normal que Massa fasse sa tronche à la fin, plutôt que de faire la tronche. Il laisse pas passer. Faut faire preuve de caractère, les gars.
Pour le coup, on peut comparer avec Weber. Weber, il a même dit qu'il aurait peut-être dû moins l'ouvrir. Mais en même temps, voilà, il a montré sur la piste.
Il faut prendre le risque. Mais c'est vrai aussi qu'il faut. Massa, il n'avait pas le choix, je pense, dans sa tête. Il n'avait pas forcément le choix de le faire. Non pas parce qu'il y avait une pression de Ferrari. Voilà, Ferrari lui dit de le laisser passer. Je pense que c'est surtout que lui-même sait que c'est la meilleure décision à prendre. Lui-même sait qu'il a aucune chance au championnat et que il a plus rien à défendre cette saison. Que
il faisait quand même bien la gueule hein, sur le podium. Hein. C'est pour ça que certains ont dit, enfin voilà, il a signé son paragraphe Barrichello ce week-end.
Encore une fois, j'approuve pas ce qu'a fait Ferrari. Je trouve ça dommage. Ils font un superbe résultat, ils font un superbe week-end sportif, et malheureusement cette image elle est gâchée par cette décision. Maintenant, c'est vrai que ça m'amuse toujours un petit peu d'entendre ces paradoxes. Je les comprends, ces paradoxes, parce que on est des fans qui parlons avec notre cœur de fan, notre cœur d'amateur, qui regardons, parce qu'on est obligé de le regarder, parce que c'est le seul qu'on nous donne à donner, un sport professionnel, où Ferrari, c'est 300 quelques millions d'euros de budget, où on a un pilote qui est payé 40 millions d'euros, qui est soutenu par le deuxième plus gros sponsor de l'équipe, qui va devenir l'un des plus gros sponsors de l'équipe dans le futur. Il y a des enjeux financiers derrière, on peut pas nier, et c'est pareil dans toutes les équipes.
Alors après, au-delà du simple aspect éthique, il y a un fait, c'est qu'ils ont fait quelque chose d'interdit par le règlement, hein, en le déconnectant de l'aspect éthique. C'est marqué dans le règlement. On a souvent discuté cette saison de est-ce que les équipes lisaient le règlement. Oui. Là, ils l'ont pas lu.
Oui, ils l'ont lu.
Enfin, ah. Non, oui, mais il fallait quand. En plus, faut savoir que ce week-end, enfin juste avant ce week-end, il a été annoncé que les équipes ne pourraient plus censurer leur communication radio. Parce qu'avant, elles pouvaient, jusqu'à une certaine mesure, dire non, ces communications-là, elles ne passent pas à la télé. Désormais, c'est canal ouvert pour tout le monde. Donc, je veux dire, on touche, c'est même plus de l'aspect éthique, c'est de la stupidité pure de faire ça ce week-end, quoi. Je veux dire, en pensant ne de pas se faire avoir.
Techniquement, juridiquement, parce que c'est ce qui va compter dans la décision, juridiquement, il n'y a pas de consigne, il n'y a pas d'infraction au règlement. De la même manière que pour le diffuseur, c'était une interprétation du règlement extrêmement limite, qui allait contre le sens même du règlement, contre l'intention qu'il y avait derrière. Mais c'était derrière, c'était légal. Et c'est ça le problème, c'est que si on remonte à ça, la FIA, elle autorise le double diffuseur, alors que tout le monde sait que moralement, éthiquement, c'est pas dans le sens du règlement. Il y a eu d'autres exemples hein, cette année et même l'année dernière, d'autres exemples de cas où la FIA validait des décisions qui n'étaient pas forcément dans le sens du règlement ou de l'éthique. Il y a aussi le rôle de la FIA derrière, et là, la FIA ne pourra rien faire.
Il y a comme déjà, il y a quand même l'amende de 100 000 dollars. Je veux dire, il y a quand même pour les juges commissaires une violation du règlement. Oui. Sinon, il y aurait pas l'amende.
Mais une violation.
Donc il y a bien quelque
mais
chose.
Oui, non, mais une violation, il ne donne que 100 000 dollars. Rappelons que Ferrari avait pris 1 million de dollars d'amende en 2002, alors qu'il n'y avait aucun règlement qui stipulait qu'il y avait interdiction de consigne. La Ferrari ne prend que 100 000 dollars. Ce cas-là, pourquoi ils prennent 100 000 dollars? Ils peuvent pas prendre plus. Le problème, c'est qu'il n'y a aucun argument. C'est pour ça que je crois qu'au Conseil mondial, il y aura aucune décision qui sera prise et que le Conseil mondial, c'est juste un moyen de faire pression sur la Scuderia. Puisque on sait qu'il y a une bisbille depuis quelques semaines entre la Scuderia et la FIA, parce que voilà, la Scuderia a un peu critiqué, elle a parlé de courses manipulées sur la pénalité, etc. Là, ils en ont donné un bel exemple de courses manipulées.
Oui.
Et voilà, je pense que la FIA a pris cette décision de reporter ça au calendrier de septembre, en se disant, voilà, ça va nous permettre de calmer la Scuderia pendant quelques temps. Puis il y aura rien qui sera décidé, parce qu'ils peuvent rien décider. Surtout quand on sait qui est à la tête de la FIA, et qui serait donc très mal placé pour réagir. Voilà, c'est triste de voir ça, parce que, surtout que la FIA n'a pas besoin de polémique, malheureusement ça conduira à rien. Et je pense que la réflexion, et c'est là où je suis un petit peu triste, parce que la réflexion se porte en ce moment que sur Ferrari, et que sur le règlement, sur ce point de règlement. Je suis content qu'il y ait une réflexion sur l'utilité ou pas de cette règle, parce que faut être honnête, on interdit les consignes d'équipe, elles ont toujours existé malheureusement, on a juste essayé de faire croire qu'elles n'existaient plus. C'est là où le règlement de la FIA est stupide, on fait croire que ça n'existe plus alors que ça existe, et malheureusement il se trouve qu'en plus on est dans un contexte qui ne laisse plus grande marge de manœuvre aux équipes, parce que alors Steph Coeur donne en exemple Michael Schumacher. Honnêtement, c'est vrai que l'ère Schumacher a été fait de pas forcément d'actes de bravoure. Maintenant, les consignes d'équipe, elles n'ont pas été inventées par Michael Schumacher. Les coups de crasse, ils n'ont pas été inventés par Michael Schumacher. Des consignes d'équipe, il y en a eu de tout temps, dans tous les sports, dans toutes les compétitions automobiles. Voilà. Je pense surtout que pourquoi il y a une consigne d'équipe aujourd'hui, on a privé, en arrêtant les essais privés, en arrêtant les ravitaillements en course, on a privé les équipes de biais stratégiques pour avoir une influence sur leur propre course. Aujourd'hui, la Formule 1, c'est on met nos pilotes dans les voitures et pendant 60 tours, l'équipe elle a un contrôle restreint sur ce qu'elle peut faire. Et aujourd'hui, les équipes se retrouvent face à des alternatives qui sont de devoir flirter de plus en plus avec le règlement. Le manque de liberté oblige les équipes à trouver de plus en plus d'astuces pour contourner ce règlement. Que ce soit du côté technique, on en parle depuis longtemps, mais aussi du côté de la stratégie. Et aujourd'hui, une équipe comme Ferrari, si elle veut, face aux conditions, improviser une stratégie qui favorise un de ses pilotes, elle n'a pas d'autre solution que de lui demander de dire, écoute, tu le laisses passer. Donc, c'est ça, je pense qu'il faut avoir une réflexion, il suffit pas juste d'interdire les consignes d'équipe, il faut simplement poser une réflexion pour se dire, quelle autre alternative on peut donner aux écuries de Formule 1 pour qu'elles puissent avoir une influence pendant la course sur leurs résultats, parce qu'elles sont quand même maîtresses de leurs résultats, parce qu'elles ont quand même des intérêts derrière, sans que ça gâche l'image du sport. Parce que faut être honnête, tout ce que ça a gâché, c'est pas le résultat sportif, On sait très bien que le résultat sportif en Formule 1 ou dans les sports professionnels, il est toujours un peu biaisé. Ce que ça a gâché là, c'est l'image. Le beau tableau qu'on essaie de nous faire avaler depuis des années, comme quoi la Formule 1 est devenue un sport propre, sans polémique, sans avantages, sans, où tout se passe bien, le pays des bisounours, comme tu disais la dernière fois, c'est pas vrai. Voilà. Ce qui est ridicule, c'est de voir, c'est le grand symptôme de ce week-end, c'est de voir Ferrari qui tente de cacher, avec Fernando Alonso qui nous sort je crois que Massa a eu un problème de boîte. Non,
c'était ridicule ça.
C'est ça qui était ridicule. Je pense que ça aurait mieux passé s'ils avaient reconnu en disant voilà. Écoutez, on est dans une situation où on n'a pas le choix, là il y a des décisions d'équipe qui se sont imposées et
est-ce qu'elles se sont imposées franchement? Alonso était pas capable de doubler par lui-même?
Oui, mais
franchement, si justement il était si rapide.
Il n'était pas si rapide. Ah. Il était à 3 secondes, il s'est rapproché à un moment donné, il est retombé à 3 secondes, il n'était pas si rapide.
Ah oui.
C'est pas une question de rapidité. On est bien d'accord que derrière cette phrase Alonso est plus rapide, c'est un code pour dire laisse-le passer. Même si c'est vrai qu'Alonso revenait très fort, hein, il est passé de 3 secondes et quelques à 6 ou 8 dixièmes. Voilà, je pense surtout que chez Ferrari, il y a aussi un mot d'ordre, ça a toujours été un mot d'ordre, c'est pas de casse. Là où on a Red Bull, par exemple, qui dit, voilà, nous, nos pilotes se battent, même s'ils sont en tête, ils se battent. Chez Ferrari, d'abord, et Montezemolo l'a rappelé, chez Ferrari, d'abord, on travaille pour l'équipe, on travaille pour Ferrari, on représente l'équipe. Et Ferrari, son intérêt premier, c'est qu'il n'y ait pas de casse.
Si Massa avait gagné, en quoi ça aurait été plus pénalisant pour Ferrari?
Bah, ça aurait fait 7 points de moins pour Alonso. Et dans la situation où est Ferrari actuellement, les 7 points, il vaut mieux aller les chercher.
Mais pour une équipe, ce qui compte le plus, c'est le titre constructeur, faut pas l'oublier.
Pour une équipe.
Hein, d'un point de vue financier.
Là, on parle de Ferrari.
Pour une équipe.
Ils s'en foutent. Ce qui les intéresse, c'est le titre. McLaren, c'est pareil. Hein. Je pense que McLaren, ce qui les intéresse, c'est le titre. Le titre pilote a autant de saveur. Parce que faut être bien d'accord, c'est beau le championnat constructeur. Ben, le constructeur, il s'intéresse à Mercedes, à Toyota, à BMW, à Cosworth, à Ferrari Motorist. Voilà. Mais le prestige, il vient du championnat pilote. Et Ferrari, ils sont contents d'avoir le championnat pilote, hein, quand même. Ils sont contents d'avoir le constructeur. Mais à choisir, s'ils peuvent avoir qu'un titre, c'est le championnat pilote. Et aujourd'hui, ils sont mieux placés pour avoir le pilote que pour avoir le constructeur. Quand ils seront champions, tout ce qu'on retiendra, c'est que, en 2010, Fernando Alonso, sur Ferrari, avait été champion. Alors oui, on parlera de la manière, mais c'est pas le premier truc qu'on verra. Ils s'en foutent de leur image. Leur image, ils savent très bien que, surtout dans leur position où ils étaient dominants, ils ont tellement cristallisé les opinions pro et contre Ferrari qu'aujourd'hui ils sont plus à ça près. Alors c'est vrai que ça donne pas une bonne image.
Mais rassure-nous, malgré tout ce que tu nous as dit ce soir, hein, tu n'as pas apprécié ce qui s'est passé dimanche.
Non mais je suis toujours un peu gamin devant ce que je regarde. Mais je le suis moins que Steph Kerr, par exemple.
Il faut du rêve.
Oui,
il faut du
rêve. Steph Kerr, je suis content. Je comprends sa position. Et je suis content de voir qu'il y a encore des gens qui pensent comme ça. Moi, mon côté passionné est déçu de ce qu'il a vu. Je suis déçu que ce soit encore la Scuderia qui montre ça. Je suis déçu de voir ça en Formule 1 parce que je pense que la F1 est un super sport qui mérite de voir ça. Maintenant, voilà, j'ai toujours dit, hein, je conseille pas forcément à mes amis de regarder la F1. Je fais pas forcément la pub. J'en suis passionné, mais c'est pas un sport que je promeux parce que voilà, j'ai aussi conscience de ses défauts et j'ai toujours eu conscience de ses défauts. Voilà. Quand Steph Kerr parle d'éthique, parle de morale et parle de l'exemple à donner aux enfants. Moi, je suis désolé, mais mon petit neveu, l'exemple que je lui donne, c'est pas au foot, je prends pas des exemples de sportifs.
Ouais, mais ce sont des exemples. Le plus grand l'exemple connu, c'est les footballeurs d'aujourd'hui. On dit tout le temps, oui, ce sont quand même des exemples pour les gamins.
Oui, mais c'est des exemples, mais c'est faux aussi que derrière, il y a des adultes comme nous qui leur expliquions. Faut expliquer simplement aux gamins qui a le côté passionné. Et que malheureusement, des fois, le sport qu'on regarde, on a beau en être passionné, le sport donne pas de bon exemple. Et justement, c'est des occasions pour montrer aux gamins, leur dire, voilà, tu vois, ça c'est un contre-exemple de ce que donne le sport, leur expliquer que dans le sport, il y a de l'argent, que dans le sport, il y a de l'intérêt, qu'il faut qu'ils fassent la différence entre le pur plaisir du sport, le plaisir qu'il peut avoir à regarder une course, à regarder des pilotes se battre, ou à lui-même faire de la course, et le plaisir à regarder de la F1. J'ai cette fâcheuse tendance à vouloir être l'avocat du diable, à vouloir essayer de comprendre pourquoi, etc.
Je veux peut-être citer justement ce qu'on dit les auditeurs. Twitter sur Masaya Alonso.
Oui, parce que je parle trop.
Donc sur Massa, donc Fab 007 l'a mis premier. Donc il aurait mérité de rester en tête. On ne sait pas s'il aurait tenu jusque là, mais perdre une place de cette manière, ça fait mal au sport.
Bah tiens.
Au vrai. Hein. Sato Kamikaze, lui, l'a mis neuvième.
Ouais.
Il a pris une optique différente. Et oui, vous vous demandez pourquoi je l'ai mis si bas. Tout simplement parce que je trouve cela pitoyable de s'être laissé marcher sur les pieds de cette manière quand on voit son potentiel. Cela prouve simplement qu'il n'en veut pas assez, qu'il n'en voudra jamais assez pour être champion du monde. Et ça, franchement, ça m'a déçu de sa part.
On parlait du modèle de Weber.
Buchor l'a mis deuxième, rapide, et fait jeu égal avec son coéquipier. Et ne lui manque plus qu'un peu de charisme pour vraiment être au même niveau.
Bilot sur Massa, il l'a mis premier, il a dit « Un an tout juste après son accident, il a prouvé qu'il était de retour, faisant taire les critiques et à son encontre. » C'est vrai. Il gérait bien son duel avec Alonso, jouant avec lui au yo-yo, au niveau des meilleurs tours. Il défendait sa position comme il le fallait, apparaît l'attaque de son équipier de façon très propre et très correcte. C'est tout à fait vrai. Certains pilotes devraient en prendre de la graine. Là aussi, c'est vrai. Quand on lui a lâchement demandé de laisser passer Fernando Alonso, le pleurnichard, car celui-ci n'y arrivait pas tout seul. J'espère que ses performances vont le motiver pour la fin de saison. Voilà.
C'est vrai qu'en plus, on a dit de Massa qu'il avait des mauvais résultats, que ça pouvait être plus ou moins conséquence. Moi, personnellement, j'ai jamais eu l'impression que c'était à cause de ça.
On a nous-mêmes tempéré la dernière fois en disant que, voilà, tout simplement, c'est fallait regarder Massa comme un numéro 2 et pas comme un numéro 1, mais le regarder comme un numéro 2, un excellent numéro 2. Et là, ses résultats sont pas décevants. Il fait une bonne saison. Voilà, c'est un excellent numéro 2. Aujourd'hui, c'est évident, il est dans... C'est même là, c'est même sans que Ferrari ait besoin de prendre la décision, le fait qu'il acquiesce et qu'il obéisse montre qu'il n'a pas le statut d'un numéro 1. Ce qu'a fait Weber la dernière fois, Massa peut pas le faire et il le fera jamais. Tu te transformes pas comme ça. C'est un team player, voilà, c'est un team player. Mais il n'a pas suffisamment la hargne pour gagner. C'est dommage.
Et donc concernant Alonso, alors Fab 007 l'a mis cinquième. Belle course, mais je n'ai pas aimé la victoire. Ouais. Celui-là, on comprend. Sato Kamikaze l'a mis dixième, donc il l'a quand même mis derrière Massa. Celui qui parlait de course manipulée à Valence. Hein, c'est vrai. Avec un point d'exclamation. J'espère qu'il est heureux de sa victoire. Le mec chouine que c'est ridicule simplement parce qu'il a encore des chances de titre, et Massa non. Bah désolé Ferdi, une victoire ça se demande pas à mon grand, ça s'obtient. Mais bon, c'est compréhensible de la part de Ferrari, ils ne veulent pas perdre leur championnat. Pas foutu de gagner sans être numéro 1, bah oui, ça serait si bête.
Oui, cette phrase est complexe.
J'ai pas tout compris la phrase, mais c'est pas grave. Et donc Buchor l'a mis premier, Alonso. En fin de retour sur la plus haute marche du podium, grâce à une voiture compétitive, on retiendra qu'il décroche officiellement, entre guillemets, le statut de numéro 1 au sein de la Scuderia. Voilà. Je sais pas ce qu'a mis Pilot.
Il a mis Alonso, mais en dixième position, alors qu'il a mis Massa en premier. S'il avait été sobre et honnête, je l'aurais mis deuxième, mais son attitude d'enfant gâté à la radio, insultant quasiment son équipe au passage, dire que Massa est en tête, soit un fait ridicule, j'appelle ça une insulte, effectivement. Je suis pas d'accord. N'est pas ce qu'on attend d'un vrai pilote qui a fait preuve de lâcheté ensuite, n'amusant pas ses caprices qui ont abouti à cette situation. Adopter l'attitude du mec qui est allé décrocher la gagne à la force du poignet n'est pas respectueux vis-à-vis de Massa, c'est vrai. Ensuite, il a simulé ne pas avoir compris ce qu'il se passait, c'est vrai. Mais bien sûr, ce pilote ne mérite pas les louanges que les journalistes aveuglés lui font. Quand on est champion du monde, on ne se rabat pas sur son équipe quand on n'arrive pas à doubler son coéquipier. Je nuancerai quand même sur...
Il met quand même une pression terrible, hein.
C'est affolant.
Dans ses comme radio, hein. C'est affolant. Hein.
Mais
je veux dire, Ferrari, pourtant, ils ont l'habitude d'avoir des phares personnalités. Hein. C'est une grosse équipe. C'est limite, ils ont pas la trouille de leur propre.
Je pense qu'ils ont pas l'habitude des mecs qui veulent autant mettre leur équipe à leur botte. Voilà, Massa est pas de ce genre, Raikkonen n'est pas de ce genre.
Mais j'ai même envie de dire, Schumacher, à sa façon, n'est pas de ce genre non plus.
Oui, non, mais en plus,
dans le sens où il était plus dans la construction.
Et puis c'est vrai que les mecs qui aujourd'hui qui sont dans l'équipe n'ont pas forcément connu Schumacher au début de l'équipe, mais plutôt dans la période où déjà Schumacher avait l'équipe autour de lui. Voilà, aujourd'hui c'est vrai qu'il se retrouve avec un mec qui veut son équipe. Voilà, je le dis clairement. Et faut pas se cacher derrière son petit doigt. Ferrari, ils ont engagé Alonso pour être un nouveau Schumacher. Et pour le moment, on a l'impression qu'ils donnent pas les moyens. Bah oui, malheureusement. Il faut sacrifier Massa si tu veux avoir un Alonso en pleine forme. Mais sur, je reviendrai sur le fait de l'insulte d'Alonso. C'est pas une insulte, il est juste voilà, c'est ridicule. Moi, c'est ridicule d'avoir à se battre pour la première place si lui est plus rapide alors qu'on se bat entre coéquipiers. Voilà, c'est son point de vue. Maintenant, il n'insulte pas Massa de dire que c'est ridicule que Massa soit en tête. Il insulte juste la situation. Il dit juste que la situation est ridicule d'avoir à se battre avec son coéquipier alors que lui est plus rapide.
Ce qui est dommage, mais enfin, c'est juste une remarque que je fais, c'est que c'est vrai que depuis le début de cette saison, la saison 2010 avait été un peu épargnée par ça. Justement, depuis le début de la saison, on ne parlait que de sport. Les résultats étaient... voilà, il n'y avait pas eu de... Il y a eu des petits déclassements, des choses comme ça, mais rien de profond par rapport au championnat. 2010, c'était une année où on parlait que de sport et c'était très agréable. Et là, bon, bah, ça vient un peu casser tout ça.
Et j'avais même dit que c'était dommage d'ailleurs que les médias cherchent à monter en épingle l'histoire de l'aileron et faire du drame et de la polémique autour de ça, alors que ça n'en est pas. Là, par contre, oui, il y a de la polémique et les médias n'y sont pour rien pour une fois.
Très bien. Donc, on va passer au classement. D'abord, le classement du SAV, qui est très serré, hein, puisque Vettel est toujours en tête avec 146 points devant Hamilton, non même plus, depuis devant Alonso avec 141 points et Hamilton 140 points. Avec un petit point. Weber est à 122 points et Button à 120 points. Chez les équipes, là encore c'est assez serré, hein, puisque Red Bull est à 268 points, McLaren est deuxième mais 260 points. Donc il y a que 8 points d'écart. Ferrari est troisième avec 206 points. Donc ils ont quand même rattrapé un peu leur écart. Mercedes, donc toujours quatrième, 128 points, tandis que Renault est à 104 points. Dans l'autre classement, Lewis Hamilton, 157 points. Jenson Button, 143. Mark Webber et Sebastian Vettel sont à égalité avec 136 points, mais Webber est devant puisqu'il a une victoire de plus. Et donc Fernando Alonso, 123. Donc qui quand même là encore c'est vrai fait une bonne opération au classement. Chez les constructeurs, McLaren a atteint la barre des 300 points.
Oui. Ça doit être le record, hein.
Devant Red Bull avec 272 points et Ferrari 208 points, qui est largement devant Mercedes qui en a 132 et Renault 96. Voilà, donc c'est tout pour les classements. On va passer au fait marquant de la course. Donc, on va revenir à la Grande-Bretagne avec une belle bagarre.
Oui. Faut le dire.
Ça s'est tenu pendant très longtemps. Pendant très longtemps, il y a même eu égalité.
Ça s'est revenu à une voix aujourd'hui, puis t'as repris une voix aujourd'hui dans l'après-midi.
Donc, troisième, l'absence de Bruno Senna, 14%, 3 votes. Est arrivé deuxième, Weber, désavantagé en qualification. 38%, 8 votes. Oui, mais ça pouvait pas tenir. Parce que t'as voulu faire un truc genre Weber désavantagé alors que pendant la
course,
t'as dit que Weber avait pas été désavantagé. C'est pour ça que je l'ai souligné, je voulais montrer le côté illogique de ton
truc. Non mais c'est bien. Je voulais voir si les auditeurs avaient une morale ou pas.
C'est un bon score.
Constate que les auditeurs ont une certaine éthique.
Et donc, il est arrivé premier, le premier virage musclé des Red Bull. 48%, 10 votes.
Bravo, Chili.
Donc.
Bon, bah, Enzo n'est pas là, donc, c'est à moi qu'on revient le premier choix.
Ouais. Je te propose même, comme t'es arrivé deuxième, d'en choisir deux. Puisque t'as perdu.
Ah, oui.
Bah, il faut quand même qu'il y ait trois choix.
Bah, je dirais, la consigne d'équipe, de Ferrari. Bon, y a pas de suspense, hein.
Oui.
D'ailleurs, ça, c'est quand même une question qui a plusieurs dimensions. Je pense qu'on pourrait essayer de pour le coup, de réussir à faire deux réponses qui aborderaient la question sous deux angles. Je pense que voilà, on va essayer de transformer ça si ça te dérange pas. Je pense que ça un petit peu en sondage d'opinion. Puisque j'en ai deux, je mettrai d'abord la qualif qui se joue à 2000e.
Ouais.
Et je mettrai la question, le point de vue pro Ferrari. Je pense que comme ça, toi, tu mettras le point de vue anti-Ferrari et ça frappe anti-Ferrari, mais contre.
Ouais.
Et comme ça, ça fera un peu sondage d'opinion et on verra un petit peu.
Voilà.
Je mettrai Ferrari qui choisit un numéro 1, voilà, qui se relance dans le titre.
Qui sur leurs antennes. D'accord. Bah, donc, je vais mettre, bon, ça va être assez choc. Oui. Bah, c'est vrai qu'il se fait voler sa victoire.
Donc ça, c'est, bon, il y a un petit peu la troisième qui est un peu anecdotique, hein, par rapport à, ouais. Mais comme ça, c'est vrai qu'on va, on va peut-être voir un peu le point de vue de chacun.
En même temps, on se doute bien que si on avait mis une seule fait marquant juste par rapport à ça, enfin, il y avait même pas de sondage.
Voilà, parce que là, c'est vrai que là, on verra un peu la perception que vous en avez. Est-ce que vous regardez surtout le choix tactique de Ferrari de se prendre un numéro 1 et le fait que Massa, plutôt côté sentimental, le fait que Massa se fasse voler la course.
Ou bien si vous fumez de l'herbe, si vous êtes plus attentif au calibre.
Voilà.
Parce que c'est jamais, il y a en tête des votes. On passe au drive-thru.
Oui.
Le service après-vente de la F1 vous présente les drive-thru of the weekend. Quand les animateurs disent que franchement, c'est pas bien.
Nous n'avons pas de drive-thru de nos auditeurs. Hein.
C'est normal, faut pas hésiter aussi à...
Disons que il y en aurait, hein, c'est drive-thru je pense que ça sera des drive-thru un peu d'ensemble contre Ferrari ou...
Voilà. Oui.
Il y en aurait un qui par exemple, pourrait être contre Ferrari, c'est de Bilot qui dit, quant à la décision de Ferrari en elle-même, je la condamne à moitié. J'estime que faire ce coup à Felipe un an après et sans cœur, surtout à 8 courses de la fin et sachant que Massa n'avait que 30 points de retard sur Alonso, j'aurais mieux compris à 5 ou 4 courses du but. Mais bon, cela n'a rien de révoltant, c'est plus l'attitude d'Alonso qui est scandaleuse. Donc ça serait un drive-thru à Ferrari et Alonso.
Oui. Tu as un drive-thru?
Moi j'ai un drive-thru sur à Christian Horner. Pour la même raison que j'avais mis des drive-thru à McLaren concernant l'affaire de... D'ailleurs, je trouve assez bizarre que pour le coup McLaren n'ait pas autant joué qu'à son habitude de la carte nous sommes solidaires, etc.
Ouais, enfin les pilotes ont quand même dit que eux ils n'auraient pas
mais je mettrai un drive-thru à Christian Horner qui a dit que à ce moment de la saison. Bon, il a fait une différence effectivement entre ce qui leur a été arrivé et la décision de Ferrari, une différence qui est totalement juste. Maintenant, il a dit, je résume, je n'ai pas la citation en tant que telle, mais il a déclaré que à ce moment de la saison, privilégier un pilote, ça ne se faisait pas, etc. Est-il nécessaire de rappeler à Christian Horner, que j'apprécie beaucoup et que j'ai défendu jusque-là, qu'il y a encore 2 semaines, il était impliqué dans une grosse polémique, un peu montée comme une mayonnaise, où on l'accusait d'avoir privilégié juste... Ah, attention, hein, Ferrari, ils ont fait ça 9 courses avant la fin. Red Bull, c'était 10 courses avant la fin. D'avoir privilégié un pilote sur un autre. Voilà, donc oui, effectivement, ils ont privilégié le leader au championnat, quelqu'un qui n'avait que quelques points d'avance sur son second, là où Alonso en a 30. Je ne... Voilà, c'est juste pour dire... Faut savoir se taire, quoi. Surtout que là, ça leur rend pas hommage dans la mesure où ça ne fait que mettre en évidence l'hypocrisie de la situation. Et toi, Shinji, tu as un drive-thru?
Moi, alors, bon, bien sûr, hein, comme beaucoup, hein, je partage avec les auditeurs, j'aurais envie de mettre un énorme drive-thru contre Ferrari. Mais en fait, avant la course, j'en avais fixé un et je vais quand même rester sur ma ligne. Donc entre guillemets, il y a un drive-thru contre Ferrari, mais bon, on en a déjà assez parlé. Il y en a un deuxième, c'est contre Bernie, quelle nouveauté, puisque Bernie a eu, comment dire, il a eu une phrase, et comment dire, pour faire simple, on ne doit pas toucher aux vaches sacrées, hein. Et Bernie, la semaine dernière, a émis l'idée, alors, sans doute que c'était plus pour mettre la pression, hein, que véritablement avec une idée en tête. Il a osé dire qu'en gros, il n'y avait que 2 choses indispensables à la F1. La marque Formule 1, ce qui peut se comprendre, et Ferrari, ce qui se comprend aussi aisément. Mais évidemment, quand on aime la F1, on a envie de dire qu'il y a une troisième chose qui est indissociable de la F1, c'est le Grand Prix de Monaco. Or, il ne l'a pas dit.
Non.
Car, pour la première fois, alors je le répète, hein, c'est sans doute seulement un coup de pression, il a émis l'idée que même le Grand Prix de Monaco pouvait risquer de disparaître, pour les mêmes raisons que d'autres Grands Prix européens risquent de disparaître, C'est-à-dire que tout simplement, bah l'argent, la monnaie, parce que c'est le monnaie, hein, la monnaie qui fait tout, et notamment en F1. Hein. Faut savoir qu'actuellement, pourquoi il y a cette phrase, c'est parce que Bernie est en train de renégocier avec les organisateurs de Monaco, qu'on a appris d'ailleurs à l'occasion qu'en fait Monaco payait beaucoup moins que d'autres circuits. Là où d'autres circuits payent facilement 20 à 24 millions de dollars par an.
C'est la preuve que Monaco n'est pas si dispensable que ça.
Dispensable, exactement. En même temps que Monaco paye moins, en effet, ça paraît compréhensible. Parce que Monaco, c'est quand même, c'est le Grand Prix. Pour beaucoup de gens qui ne connaissent pas la F1, qui ne connaissent pas la Super Auto, ils connaissent le Grand Prix de Monaco. Le Grand Prix de Monaco a une aura qui dépasse notre sport. Le Grand Prix de Monaco est connu pour être une des plus grandes courses du sport auto, une des plus anciennes d'ailleurs aussi. Monaco aussi, c'est ce qui nous rattache au passé. Beaucoup de circuits, beaucoup de grands prix, même quand ils sont anciens, ne roulent plus forcément sur les circuits d'il y a 60 ans. Rares sont les cas comme le Royaume-Uni.
Même quand on voit par exemple les changements qui ont été apportés à Silverstone, c'est le seul circuit qui, quoi qu'il arrive, ne peut pas perdre son âme. Voilà. Sur les changements qui ont été faits par Silverstone ou à Monza, certains diront qu'ils ont perdu leur âme. Mais là, Monaco, lui, ne peut pas perdre son âme. Le cadre, même le tracé est imposé par l'existence même de la ville.
Monaco a une âme. Oui. C'est important. On parle de passion. Monaco a une âme. Monaco nous rattache au Fangio, nous rattache aux Ascari, nous rattache au Graham Hill. C'est ce qui nous rattache à notre passé, à cette passion. On parlait d'éthique, de passion. On est en plein dedans. C'est l'essence même, sans mauvais jeu de mots, de la F1 qui est à Monaco. Alors, on va pas s'affoler plus que ça. C'est certain que c'est sans doute plus un coup de pression par rapport aux organisateurs.
Il avait osé dire l'an dernier qu'on pouvait se passer de Ferrari. Et cette année, il dit qu'on peut plus se passer de Ferrari. C'est le discours de Bernie.
Mais voilà, comme, on touche pas au Valse Sacré, on touche pas au Grand Prix de Monaco. Et je pense même que si on prend tout ce qui est enquête mondiale, LG, choses comme ça. Je veux dire, Monaco est face. Peut-être pas le premier, quoique, je suis presque sûr qu'il arrive quasiment tout le temps premier. Il doit être dans le trio de tête. C'est l'évident, tout simplement, Monaco. Donc voilà, c'était mon drive-through.
Bon drive-through.
Je sais qu'il y avait d'autres choses ce week-end, mais voilà, j'y tenais à celui-là. On va passer au concours top opposition.
Le service après-vente de la F1 vous présente le concours top opposition. Un concours sans musique qui fait flipper, ni question à la con, quoique.
La question était proposée par Maël. Quelle était la première fonction du terrain où se situe actuellement le circuit de Silverstone? Et la réponse Shinji était...
C'était donc un aérodrome de la Royal Air Force.
Off course!
Ouais. D'ailleurs, il a accueilli encore pendant longtemps, même s'il y avait le circuit, hein. Oui. Il y avait des avions qui décollaient, encore des pistes, en fait, des pistes en croix. Ouais. Qui n'apparaît plus vraiment à cause de la nouvelle section, puisque jusqu'à l'an dernier, le circuit faisait vraiment le tour des deux pistes. Et là, bien évidemment, avec la nouvelle partie qui rentre complètement à l'intérieur, entre guillemets, du complexe, on passe sur des parties où il y avait auparavant la piste d'atterrissage. Donc c'est quelque chose qui disparaît aussi.
Ouais. Nous avons reçu 4 réponses, donc 4 questions. Je te les soumets, Shinji, tu choisiras laquelle. Quels sont les deux pilotes ayant réalisé un fulgurant envol à Hockenheim, au sens de figure de gymnastique, hein?
Oula, il y a de la recherche là.
Et question suivante, quel pilote fut victime d'un accident à Hockenheim qui lui coûta le titre, ainsi que sa carrière en F1 lors de la saison 82, déjà marquée par des drames?
Ah oui, il a eu des problèmes au cervical ou cou, choses comme ça, il a dû être... ouais.
Ensuite, question suivante. Quelle voiture hérita de son surnom sur le circuit du Nürburgring le 3 juin 1934 sur une décision d'Alfred Neubauer?
Ah, ça, c'est une question que j'aime beaucoup.
Je t'avouerai que quand je l'ai vue, cette question, je me suis dit, Shinji va l'aimer. Et enfin, nous avons, en comptant 2010, combien de fois Ferrari a-t-elle été victorieuse à Hockenheim? Donc, Shinji.
Vu que j'aime l'histoire, vu que j'aime les anecdotes et que c'est une... Enfin, en même temps, si vous aimez le sport auto et si vous aimez le sport auto, normalement cette question est hyper facile. Oui. Hein. Oui, cette question sur l'anecdote de Monsieur Neubauer. Donc c'était à Hockenheim.
Oui. Non, c'était sur le Nürburgring.
Ah, le Nürburgring.
Alors, on m'a bien précisé quand on a envoyé la question que ça parlait pas vraiment de F1, que
ouais.
C'était pas sur Rockelheim, mais c'était voilà un Grand Prix d'Allemagne. Que... Donc.
Non, oui, non. Donc. C'est allemand en tout cas, voilà. Donc il y a pas de souci.
Donc Shinji a choisi la question. Quelle voiture hérita de son surnom sur le circuit du Nürburgring le 3 juin 1934. La date est importante sur une décision ouais. D'Alfred Neubauer. Pour répondre, vous utilisez le formulaire du site du SAV de la F1 en utilisant le, en prenant comme sujet concours top position. Vraiment, c'est, j'insiste, mais c'est important que vous mettiez ça en sujet parce que dans mes mails, sinon je m'y retrouve pas entre ça, le fantasy, etc. Et je risque d'oublier une réponse. J'ai d'ailleurs failli oublier une réponse aujourd'hui. Donc, essayez d'y penser ou de me faire un mail à part pour, voilà, pour vraiment m'aider. Vous répondez, vous avez jusque la semaine prochaine hein, pour répondre. Et le vainqueur est un vainqueur. Et il s'agit de Steph Core.
Ah, c'est pas.
Et nous remercierons au passage pour leur participation Sato Kamikaze, Fab007 et Bouchor. Donc voilà.
On va se tourner alors dans déjà 2 jours.
Oui.
Ce circuit que tu aimes tant.
Oui, et dont vous aurez le plaisir d'avoir un tour de piste de dino.
Oh là là. C'est vrai que pour la Hongrie, mon cœur et ma passion, on a envie de dire Massa forcément.
Oui.
Après ce qui s'est passé il y a un an. Bon, après, je me dis que...
Et Ferrari avait été bonne à Monaco. Hein.
Donc pourquoi pas.
Massa aussi avait été bon d'ailleurs à Monaco.
Massa, et puis pourquoi pas, sinon... un Vettel.
Je mettrai Alonso en officiel et Rosberg en outsider. Je sais pas. En plus, c'est tous les deux.
Ah, puis il faut dire aussi pour les Ferrari que il y a qu'une semaine entre les deux ouais. courses, donc il y aura pas beaucoup d'évolution. Après, la piste est très différente, hein, on est bien d'accord.
Ouais, mais il y aura pas d'évolution. Ils avaient plutôt bien marché à Monaco, donc je suis. Mais en plus, je crois beaucoup aux signes, etc. Et Button en 2006, Kovalainen en 2008, Rosberg en 2010.
Allez, parce qu'on arrive quand même à la fin de l'émission, on va remercier tous nos partenaires comme d'habitude.
Oui.
Hein, même ceux qui nous font pas le tour mécatech. au moins ils nous reprochent pas qu'on les cite pas. On les cite. Nos partenaires cibles, évidemment, tout est fin, etc.
Je voulais aussi profiter de, comme on parlait de nos partenaires, c'est pas un partenaire, mais c'est voilà, on va dire que c'est je dirais pas petite sœur, mais on a appris qu'un de nos auditeurs s'était lui aussi lancé dans le podcast, Kevin Holden, qui présente un podcast qui s'appelle Flat Out V8, enfin un V8, sur le V8 Supercars australien. Donc voilà, il débute et parce qu'on est passé par là, parce que alors en plus là c'est, ça se trouve qu'on en parle le jour où on retrouve la Formule A2 et voilà parce qu'on a essuyé les plâtres à deux il y a bientôt 2 ans. Voilà, j'avais envie qu'on parle un peu de cette émission. Bon voilà, ils font leur petite émission et on leur souhaite beaucoup de courage et
longue vie à eux.
Voilà. Et ils ont quand même l'objectif qui fait plaisir, l'objectif de faire aussi bien voire mieux que nous.
Ouh.
Ouais, on est un petit prétentieux. Bah.
Prétentieux. Allez, alors sur ce, on va se quitter sur un dicton. Parce oui. que on en avait marre des poteaux.
Oui.
Et donc on a cherché. Et c'est Steph Core qui nous a donné une idée. Oui. Hein. Et donc on va se quitter désormais sur des dictons.
Oui.
Parce que c'est vachement bien de se quitter sur des dictons. Et donc n'oubliez pas ce dicton germanique. Quand la radio grésille, votre victoire vacille.